avec précision. Alors, donc on va démarrer l'après-midi avec Thierry Hoquet. Donc Thierry Hoquet a été maître de conférence à Paris 10, Nanterre, jusqu'à 2012. Et en 2012, il s'est passé quelque chose de catastrophique pour le muséum, c'est qu'on ne l'a pas pris. C'est un des nombreux reproches que j'ai à faire à l'institution à laquelle j'appartiens. Mais bon, tant pis pour nous, il est parti donc, à l'Université Jean Moulin à Lyon 3, hein, où il est maintenant prof, il est membre de l'Institut universitaire de France. C'est un spécialiste de la philosophie des sciences et de la philosophie des Lumières. Et donc, il embrasse différents aspects des sciences de la vie au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, le rapport avec l'éthique, la science-fiction. Il co-dirige le projet sur le concept de sexe dans les sciences biomédicales au XXe siècle et il a publié pas mal d'ouvrages. La vie en 1999, Buffon, histoire naturelle et philosophie en 2005, Buffon, l'inné éternel rivaux de la biologie en 2007, Darwin contre Darwin pendant l'année Darwin. Et après, la virilité, à quoi rêvent les hommes? Je ne sais pas si la virilité fait rêver tous les hommes, enfin bon bref. Et puis, cyborg philosophie, pensée contre les dualismes. Donc Thierry, tu nous parles une demi-heure. Dans une demi-heure, je reviens me mettre ici pour te faire comprendre. Oui, tu nous parles une bonne demi-heure et après on discute. D'accord. Si tu ne veux pas que les gens discutent avec toi, tu peux parler 45 minutes.
Merci. Alors, on y va. On a comme objectif donc, de finir à 15h, c'est ça? Alors, ça, comment le genre traverse le sexe? C'est la question que Anne Bonnefoy m'a posée comme devoir pour répondre un peu aux présentations de biologistes qui ont été faites ce matin et introduire donc un peu les problématiques des sciences humaines. Moi, je vais quand même rester dans un dialogue avec la biologie, donc ma présentation, elle sera très transitionnelle. Mais avant tout, je veux faire un petit flashback. Je veux revenir à Poitiers au 20-22 mai 2004. C'était le congrès de la Société française d'histoire des sciences et des techniques qui se tenait ici, qui avait été organisé à Poitiers. Et je me souviens, moi, j'étais tout juste maître de conf et j'étais arrivé dans un grand amphi comme ça et plusieurs collègues s'étaient levés et avaient dit « Avant tout, nous voulons remercier Anne Bonnefoy, qui était secrétaire générale de cette société et qui avait organisé tout le colloque. » Et là, tout l'amphithéâtre immense s'était levé et avait acclamé Anne Bonnefoy, qu'à l'époque, moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame ?» et tout. Et puis après, je me suis rendu compte qu'Anne Bonnefoy, en fait, était vraiment la cheville ouvrière, et non pas la chenille ouvrière, comme je le dis souvent, de l'histoire des sciences, et qu'elle joue vraiment un rôle clé dans cette discipline. Et donc, je voudrais que tout le monde se lève à nouveau pour applaudir Anne Bonnefoy, parce qu'elle fait un travail formidable. Voilà. Anne Bonnefoy et toute son équipe de l'Institut, bien sûr. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était mon introduction. Et c'était une introduction véritable au sens où, je vais juste commencer là-dessus, je ne vais pas en parler beaucoup, mais les femmes ont joué souvent, c'est peut-être la première introduction du thème du genre dans la science et dans la biologie en particulier, les femmes ont souvent fonctionné comme des techniciennes invisibles, c'est-à-dire elles sont là, elles travaillent, elles font plein de choses, mais on ne les voit pas, on n'en parle pas. Et l'exemple le plus connu, c'est celui de Rosalind Franklin, dont les photographies ont aidé à la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, mais dont on parle jamais parce qu'elle n'a pas eu le prix Nobel et personne ne l'a associée au prix Nobel. Voilà. Donc c'est un exemple paradigmatique. Alors j'entre à présent dans mon sujet. On y était déjà, mais voilà, de plus en plus. Peut-être d'abord par rapport à tout ce qui a été présenté ce matin, je crois que ça a été dit notamment dans la présentation du professeur Haber, mais le sexe, quand on parle du sexe, on peut parler de plein de choses différentes. Donc ici, j'en isole trois, mais simplement pour qu'on puisse vraiment savoir de quoi on parle quand on parle de sexe, parce que certains discours glissent aisément de l'un à l'autre, d'un autre niveau. Et donc, si on n'est pas averti, on perd quelque chose. Avant tout, le sexe, c'est un phénomène fondamental d'échange génétique. C'est le sens peut-être le plus fondamental en biologie, mais ce n'est pas le sens le plus immédiat dans la compréhension ordinaire du mot sexe. Échange génétique, ça veut dire que quand les bactéries, par exemple, font du transfert latéral de gènes, elles font du sexe. Bon, voilà. Même si, pour leur reproduction, ce ne sont pas des organismes sexués. Le deuxième niveau du sexe, c'est celui de reproduction sexuée. impliquant un certain itinéraire dans les cellules, la formation de gamètes et l'union de ces gamètes, la fécondation. J'aurais pu ajouter un sexe 2', où C'est celui, en fait, on parle d'individus sexués. Quand on parle des sexes, on parle d'individus, et plus particulièrement du fait qu'un certain nombre d'espèces se divisent en deux parties égales, avec une sex ratio à l'équilibre, 50-50, des mâles et des femelles. Et puis enfin, quand on parle de sexe, on parle de sexualité, on parle de comportement sexuel, on parle d'individus qui font certaines choses, qui se montent, qui, etc., comme on l'a vu ce matin dans un certain nombre d'images. Donc il y a beaucoup de sens du mot sexe. C'est pour ça que j'ai mis les bactéries Bestel. Alors, on parle du sexe bactérien, mais en fait, je prends cette formule un peu vulgaire pour que ça reste dans les esprits. Maintenant, le genre. De quoi on parle quand on parle du genre? Alors, je prends une définition classique du genre. Le genre, c'est un élément constitutif des relations sociales, fondée sur des différences perçues entre les sexes, et c'est également une façon primaire de signifier des rapports de force. Donc, on peut dire qu'il y a deux niveaux dans le genre également, il y a ce que les hommes font et que ne font pas les femmes, et vice-versa. Donc, des différences dans les comportements, dans les usages, dans les apparences, etc. Et puis, également, l'idée que le genre, c'est un concept plus politique qui permet de dénoncer des rapports de force. Par exemple, pourquoi les femmes ont été invisibilisées dans la science. Donc, c'est un outil à double lame, si je puis dire. C'est un concept, le genre, qui a été particulièrement développé à propos de l'administration des intersexes. Je dis administration, je parle de la gestion hospitalière, chirurgicale, psychologique des intersexes, c'est-à-dire des individus dont les organes génitaux externes n'étaient pas, ne correspondaient pas aux normes attendues pour l'apparence de ces appareils génitaux à la naissance. Donc cette administration chirurgicale, elle était menée par John Monnet, c'est le nom un peu emblématique de cette question, et il travaillait avec des psychologues, et notamment Robert Stoller. Et donc le propos, c'était qu'on pouvait prendre ces individus avec une anatomie ambiguë, on va dire, non conformes, et on pouvait les réassigner à un sexe ou à l'autre. Et le pari était que, quelle que soit leur identité chromosomique, le fait qu'ils soient élevés dans un sexe ou dans l'autre, c'est-à-dire comme un garçon ou comme une fille, allait suffire à former une identité sexuée stable et réussie, c'est-à-dire allait aboutir à une union hétérosexuelle, entre guillemets, de cette personne. C'est-à-dire, vous prenez alors un garçon qui naît avec un micro-pénis, on se dit avec un pénis si petit, il n'arrivera pas à réussir dans la vie, on le réassigne en fille, on l'élève comme une fille, et son identité de genre, ça sera d'être une fille, et donc il se mariera avec un garçon à la fin. Donc c'était ça un peu l'origine du concept de genre. Dans les années 70, les féministes en particulier se sont emparées du concept de genre et ça a donné la dichotomie sexe-genre telle qu'on la pratique en général, c'est-à-dire le sexe, c'est les différences biologiques, en particulier tout ce qui a trait à la reproduction, et le genre, c'est un système lié à la classification sociale qui est plus relatif aux cultures, à la période du temps, etc. Et donc c'est une tentative pour essayer de séparer un peu ce qui est inévitable, le sexe, voilà, c'est comme ça, et puis au contraire, ce qui est relatif, et également une tentative pour séparer des constats de fait et des jugements de valeur. Voilà. La question, c'est finalement, à partir de cette distinction ou ce partage des tâches assez œcuménique ou irénique, la question, c'est où est-ce qu'on met la limite ? J'ai mis le sexe, c'est un peu tout ce qui concerne la reproduction, mais jusqu'où va le sexe ? Pour moi, c'est une citation un peu ancienne, 1803, Histoire naturelle de la femme par Moreau de la Sarthe. L'empreinte sexuelle est si profonde, si universelle, qu'à l'aide d'une observation scrupuleuse et détaillée, on parvient encore à en découvrir quelques traces dans la vie de nutrition. On trouve ces traits plus ou moins prononcés du sexe dans les derniers replis, dans les profondeurs de l'organisme, ces prodiges de digestion, ces êtres qui jouissent de la faculté de dévorer rapidement une grande quantité de nourriture, vous l'avez vu pendant le déjeuner peut-être. Eh bien, ils ont presque toujours été de notre sexe, et donc masculin, comme l'auteur. Et par opposition, les femmes ont fourni le plus grand nombre des exemples d'abstinence prolongée. Donc jusqu'où va le sexe si le régime alimentaire est en fait non pas une donnée culturelle, sociale, historique, mais est quelque chose qui est biologiquement ancré dans le fait qu'il y a des hommes et des femmes. Deuxième question pour savoir jusqu'où va le sexe. La citation, encore une fois, est un peu longue. Je vais la résumer. En gros, Darwin dit, si on prenait la liste des six personnes les plus prééminentes qui ont contribué à des grandes disciplines, les sciences, les arts, etc., eh bien, le succès des hommes serait tellement massif, écraserait la liste des six femmes, quand bien même on aurait réussi à trouver six femmes dans chaque discipline. Donc voilà. Et alors il dit, c'est la conclusion qui m'intéresse à la fin, donc les deux listes, je ne sais plus comment ça marche, hein, comme ça, les deux listes d'une demi-douzaine de noms pour chaque art ou science ne supporteront pas la comparaison. Nous pouvons ainsi déduire de la loi de déviation des moyennes, Galton, etc., que si les hommes ont une supériorité décidée sur les femmes en beaucoup de points, la moyenne de la puissance mentale chez l'homme doit excéder celle de la femme. Alors pour être honnête, Darwin ne dit pas que c'est biologique, hein, mais on a l'impression quand même qu'il y a une constante qui est tellement forte que elle va au-delà de la simple relativité culturelle. Il y a une supériorité écrasante. Donc, jusqu'où le sexe ? Voilà. Donc, évidemment, dans tout ça, on voit que cette question, c'est le règne des confusions fâcheuses. Le sexe et le genre, donc on tend à les confondre l'un avec l'autre. On ne sait pas où ils s'arrêtent, ou on ne sait pas leur donner leurs frontières. Confondre également, j'ai mis le fait, le droit, l'actuel et le potentiel, l'histoire et la nature, puisque finalement ce que fait Darwin ici, c'est qu'il dit, bon, ben, dans l'histoire, les hommes ont fait ça, les femmes ont fait ça, et ben, c'est sans doute quelque chose de naturel, et ce n'est pas quelque chose de simplement historique. Notre message envoyé aux extraterrestres, Carl Sagan aux années 70, Pierre-Henri a montré ce matin des individus des années 70, en voilà deux autres, mais nus. Vous reconnaissez quand même qu'ils sont des années 70 à leur coiffure. Mais bon, à part ça, on pourrait dire que ce sont les types de l'homme et de la femme. Et d'ailleurs, ils sont souvent repris. J'ai vu une présentation d'un virologue célèbre, le professeur Clavery de Marseille, qui pas plus tard que lundi, qui montrait encore ces deux images pour dire voilà, l'homme et la femme, c'est ça. Bon. Oui, c'est ça, voilà. Alors, bon, il y a un dimorphisme de taille qu'on observe dans l'histoire. Les travaux de Priscille Touraille, voilà, qui est là-bas et qui parlera tout à l'heure, ont montré que bon, bah, ce dimorphisme de taille n'était peut-être pas aussi naturel qu'on le croit. Peut-être qu'il est un produit de l'histoire culturelle également, ça, c'est une question. Mais donc voilà, il y a ce dimorphisme de taille qu'on observe. Est-ce que c'est de fait ou de droit ? Est-ce que c'est historique ou naturel ? On ne sait pas. Ensuite, on voit également que c'est l'homme qui salue, c'est pas la femme, et on voit que l'homme se tient bien droit comme un militaire, alors que la femme, elle a sa jambe, je sais pas, négligemment traînante, enfin on sait pas ce qui lui arrive, sans compter que le mâle a des parties génitales tout de même apparentes, la femme n'a rien, elle a même pas une petite fente, rien du tout. En fait, Carl Sagan a expliqué qu'il avait retiré la fente de peur que la NASA refuse de qu'on fasse ce truc, voilà, parce qu'il y a des génitoires qu'on peut montrer et d'autres qu'il vaut mieux cacher. Voilà. Donc notre message aux extraterrestres, on a l'impression qu'il est universel, naturel, etc. Mais en fait, il a plein de petits biais de genre, de petits détails historiques qui nous montrent qu'en fait, ben, la représentation qu'on se fait des hommes et des femmes, elle n'est jamais totalement abstraite, on va dire. Donc des biais dans la représentation, mais jusqu'où ? Alors j'ai dénoncé un certain nombre de choses dans la représentation, mais vous allez me dire, bah oui, mais quand même, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, ça, vous ne m'enlèverez pas. Alors, bon, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais déjà, quand on représente ces deux signes, tout le monde comprend immédiatement donc les mâles et les femelles. Plutôt les femelles à gauche et les mâles à droite. Mais en réalité, ces deux signes-là, eh bien, ils sont également genrés, c'est-à-dire ils sont également traversés de représentations culturelles, puisque ce sont également les signes qui servent en astronomie à représenter à gauche donc la planète Vénus, représentée comme une femme tenant son miroir, et à droite la planète Mars, représentée donc comme l'articulation d'un bouclier et d'une lance. J'ai mis glaive, en fait, c'est une lance. Donc en fait, quand on voit ça, on pense femelle et mâle, mais inconsciemment, on associe Vénus et Mars, on associe la beauté et la bataille. Voilà. Donc le genre, il est partout dans la manière dont on représente la différence des sexes. D'où la question qui a été posée en particulier par Judith Butler au début des années 90, mais pas seulement par elle, qui est que le genre absorbe le sexe. Donc elle a un propos assez radical que je vous lis ici. Une fois contesté le caractère immuable du sexe, peut-être ce construit qu'on appelle le sexe, donc on ne dit plus sexe simplement, on dit sexe avec des guillemets, le sexe est aussi culturellement construit que le genre. C'est-à-dire le social, ça structure également notre pensée du sexe. Et en réalité, peut-être a-t-il toujours été déjà du genre, le sexe a toujours été déjà du genre, avec pour conséquence que la distinction entre sexe et genre ne distingue rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas du sexe qui serait la base et du genre qui serait des constructions sociales relatives qui se mettraient dessus. Tout serait toujours genré. Alors évidemment, c'est un propos extrêmement radical, mais je vais essayer de montrer comment ça peut avoir certaines applications. Donc en particulier, comment on a dépeint les comportements sexuels autour des concepts de sélection sexuelle, d'anisogamie et les biais genrés qui ont travaillé ces représentations. Alors le concept de sélection sexuelle, on en a beaucoup parlé ce matin déjà, c'est un concept qui est mis en place par Darwin et qui distingue en particulier deux facteurs, le combat entre les mâles et le choix de la femelle. On a beaucoup travaillé depuis Darwin, hein, mais disons que c'est quand même les deux dimensions fondamentales et structurantes. Combat entre les mâles et choix de la femelle. Et ça a donné lieu à deux, disons, caractérisations des deux sexes. Bien, les femelles, du coup, comme elles choisissent, elles sont un peu rétives, elles sont hésitantes à copuler, alors que les mâles, eux, comme ils combattent entre eux, ça manifeste leur avidité de copulation. Et donc, les femelles sont rétives, chastes, etc., le mot coy, et les mâles, au contraire, sont toujours prompts. Darwin, finalement, ne va pas beaucoup plus loin que ça. On peut également discuter de l'importance de ce thème ou de cette représentation pour lui. La formule coy females et les formules eager males se trouvent dans son texte, mais peut-être de manière seulement incidente. Ce n'était pas quelque chose de structurant pour lui. Mais disons, c'est quelque chose qui a vraiment été très important, qui a une postérité très grande dans l'histoire de la biologie du comportement et de la théorie de la sélection sexuelle. Mais déjà, voilà, c'est essayer d'aller un petit peu plus loin que Darwin en disant, mais d'où vient cette avidité des mâles? Pourquoi est-ce que c'est toujours les mâles qui sont avides et pas les femelles? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il a demandé si, par exemple, ça ne serait pas le fait que les mâles sont toujours plus vigoureux que les femelles. Et également, il avait l'idée que les mâles varient plus que les femelles. Ils ont une tendance à varier plus. La femelle serait plus le conservateur et le mâle, la variation. Ça donnerait lieu donc, à la traîne du paon qu'on a vu ce matin. Toutefois, les concepts darwiniens, ils ont été immédiatement interrogés, en particulier par cette femme qui n'est pas très connue, qui s'appelle Antoinette Blackwell, qui n'est pas une biologiste, c'était une ministre du culte protestant. Et en s'interrogeant sur les sexes dans la nature, elle remarque qu'en fait, les deux principes qu'on a vus tout à l'heure, donc le combat entre les mâles et le choix de la femelle, ils expliquent tous les deux la même chose. Ils expliquent tous les deux pourquoi. La même chose, c'est-à-dire le fait que les mâles ont évolué. Les mâles combattent entre eux et du coup, ils ont développé des cornes, des protections, etc. Les femelles choisissent et du coup, les mâles ont développé des ornements, des chants, des parades, etc. Donc, dans les deux cas, elle dit, mais et la femelle, alors, elle n'a pas évolué. Donc, déjà, il y a un premier biais, disons, dans l'approche darwinienne qui a été, bon, la femelle a-t-elle évolué ou pas? Est-ce que c'est un développement de base de l'espèce. Enfin, il y avait vraiment ce manque-là qui a été ensuite comblé, disons, mais on va voir dans quelles circonstances. Par ailleurs, les idées de Wallace sur la vigueur supérieure des mâles, elles ont été amplifiées à la fin du 19e par un texte qui s'appelle L'évolution du sexe, qui paraît par deux biologistes écossais. J'ai mis un P à Thomson, en fait, il n'y en a pas, je crois. Enfin. Et alors, dans leur livre, il y a beaucoup d'images, et notamment celle-ci, où on voit à gauche un mâle ailé, et à droite, la femelle de la même espèce, dont on voit qu'il y a un très fort dimorphisme sexuel, et la femelle, elle est sédentaire, nutritive, etc. Et bien loin de nous dire que ces deux individus sont seulement des exemples de dimorphisme sexuel, Gates et Thomson expliquent que ce sont les martyrs de leur sexe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'exemplarité de ce que c'est qu'être un mâle et de ce que c'est qu'être une femelle. Être un mâle, c'est donc avoir une vie extrêmement énergétique, destructrice, aventureuse, mobile, alors qu'être une femelle, c'est avoir une vie accumulative d'éléments nutritifs et une vie sédentaire. Voilà. Donc, ils expliquent que Darwin n'est pas allé assez loin, qu'en fait, il faut expliquer pourquoi les mâles, et alors pour les mâles sont comme ci, les femelles sont comme ça, et pour eux, c'est lié à des processus énergétiques fondamentaux, c'est-à-dire les mâles sont dans la destruction de l'énergie, les femelles dans l'accumulation. Alors, on pourrait dire que c'est des vieilles histoires, mais finalement, ça, je pense, et c'est un peu la provocation que je fais à nos amis biologistes, c'est que on retrouve ça finalement dans l'argument de l'anisogamie. Ou disons, l'argument de l'anisogamie, il a repris le même argument avec un fondement un peu différent. Alors, de quoi s'agit-il ? L'anisogamie, donc je crois que le mot a été prononcé, je le réexplique. Anisogamie, ça veut dire que les gamètes, à savoir le spermatozoïde et l'ovule, ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes, et donc cette photo emblématique l'illustre. Vous avez un gros œuf immobile et un spermatozoïde extrêmement mobile et dynamique et aventurier qui arrive et qui réussit à emporter le morceau contre des millions, milliards, je sais pas, de compétiteurs. Millions, ça suffira ? Centaines de millions. Voilà, donc ça c'est l'argument de l'anisogamie, il est très important puisque donc il explique que les femelles et les mâles ne produisent pas la même chose pour la reproduction, ne font pas la même chose et donc que ça implique donc des comportements différents. Ça a été repris à la fin des années 40 par un généticien anglais qui s'appelait Bateman et qui produit des expériences sur les mouches drosophiles. Il essaye de voir le comportement sexuel des drosophiles et il s'aperçoit en fait de ça. Il produit des graphiques. Alors, il fait deux graphiques. Je vais les expliquer tout de suite, mais disons, voilà, enfin, en gros, comment on symbolise le gradient de Bateman. On dit, voilà, les mâles, en fait, plus ils s'accouplent, plus ils réussissent, plus leur fitness est grande, alors que les femelles, elles s'accouplent une fois et ensuite leur fitness plafonne. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Il y a une différence dans la courbe de fitness par rapport au taux de reproduction. Et puis, le deuxième point, c'est que Bateman observe que les femelles ont toutes à peu près le même succès reproducteur, alors que parmi les mâles, il y a une grande variance, c'est-à-dire certains mâles se reproduisent beaucoup et d'autres pas du tout ou très peu. Donc ça, on pourrait dire que c'est la démonstration expérimentale moderne de la sélection sexuelle darwinienne. C'est disons le fondement expérimental des intuitions darwiniennes. Et Bateman va très loin. Alors j'ai mis une longue citation, mais on va lire seulement le début et la fin. La cause primaire de la sélection intramasculine, c'est-à-dire entre les mâles, c'est la seule qui l'intéresse, les combats entre mâles, la compétition entre mâles. La cause primaire de la sélection entre mâles semble donc être que les femelles produisent bien moins de gamètes que les mâles. Par conséquent, il y a une compétition entre les gamètes mâles pour la fécondation des gamètes femelles. C'est ça l'argument de l'anisogamie. Et puis ensuite, à la fin, cela expliquerait pourquoi chez les organismes qui ont un seul sexe, donc par opposition aux hermaphrodites, il y a presque toujours la combinaison d'une avidité sans discrimination chez les mâles et une passivité avec discrimination chez les femelles. On retrouve donc avidité des mâles et coyness, sélectivité des femelles. Et il dit, même chez les espèces à monogamie dérivée, par exemple l'homme, on peut s'attendre à ce que cette différence sexuelle persiste comme une relique. Donc ça vaut chez les drosophiles, et ça vaut chez les humains, ça vaut chez tous les animaux, en fait. Donc c'est extrêmement général comme résultat. Et l'extension, elle vient de Bateman lui-même. Alors on pourrait discuter, est-ce que ça veut dire être une espèce à monogamie dérivée, mais je reviens, on en parlera peut-être dans les questions. Donc les mâles sont avides, les mâles n'ont aucune limite à leur reproduction. L'exemple qui est souvent donné dans les livres, c'est celui-là, 888 descendants, voilà. Bon, évidemment, une femme aura du mal à réussir un tel score dans une existence normale. Et donc, on voit qu'à partir de tous ces résultats, le sexe veut absorber le genre. Donc, la protestation de Butler selon laquelle le sexe absorbe le genre, pardon, absorbe le sexe, elle a un ton radical qu'on comprend que si on a également en tête l'idée que, à partir des années 70-80, se radicalise l'idée qu'un grand nombre de comportements qu'on avait coutume d'attribuer au genre, c'est-à-dire à la société, etc., relèveraient en réalité de déterminisme sexuel. Donc le rôle des hormones dans le comportement est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les magazines. Mais l'argument de l'anisogamie est donc utilisé pour montrer que la polygamie des mâles est naturelle, et de même que les femelles tendent à la monogamie du fait de leurs différents investissements dans la reproduction. On voit également, on en a également beaucoup parlé ce matin, que l'hypothèse du conflit sexuel en dérive, puisque les deux sexes ont des intérêts différents dans la reproduction. Et donc, du coup, le viol, bah, c'est un comportement naturel, c'est simplement une manière pour les mâles de contraindre à la copulation. Donc ça, c'est, disons, le paradigme le plus radical, mais il est, je pense, relativement partagé. Je regarde mes amis biologistes. Je vais me faire dévorer tout à l'heure, mais avançons. Alors, je remarque que le genre, c'est-à-dire les représentations, j'appelle ici hétérocentrées, je vais expliquer ce que ça veut dire, mais ont traversé le sexe au moins deux fois. Dans la vision traditionnelle du sexe, c'est-à-dire dans la téléologie sexuelle. C'est le concept ancien du sexe. Vous avez le sexe, c'est quoi ? C'est une division de l'espèce en deux, et les deux sexes sont faits pour se retrouver, pour faire des petits, pour que l'espèce continue. Voilà, ça c'est la vision ancienne, celle qu'on trouve chez Schopenhauer, c'est la vision classique. Il y a un destin qui attire les sexes l'un vers l'autre pour qu'ils se reproduisent. Donc, bon, on voit que cette vision-là, c'était une vision qui était forgée sur le couple hétérosexuel standard, quoi, voilà. Mais ça a été présenté comme un impératif biologique. Et puis dans les années 70, la vision change parce que le concept de sélection de groupe est critiqué. Et donc on reprend sur un paradigme plus individualiste, mais qui aboutit un peu au même résultat. Disons que ce qui est différent, c'est qu'il n'y a plus une téléologie, une finalité qui unit les sexes a priori et qui les pousse l'un vers l'autre. Mais il y a un conflit à la base. Donc le grand apport des années 70, c'est de mettre en avant le conflit au lieu de l'harmonie qui était prévalente dans le premier modèle. Mais disons, on retrouve l'idée de destin, cette fois incorporée dans les gènes. Bon, alors j'avance parce que le temps court, mais on pourrait se demander ce qu'on voit en réalité ici, sur cette image, réfléchir sur le vocabulaire qu'on utilise quand on parle de le spermatozoïde qui féconde l'ovule comme si l'ovule ne faisait rien. L'idéologie de la belle au bois dormant qui est implicite dans nos manières de raconter la reproduction. Également, on l'a vu ce matin, donc je passe, mais je voulais le mettre là pour le dire, les biais genrés qui ont fait qu'on n'a pas vu un certain nombre de choses pendant un certain nombre d'années. Ça a été expliqué ce matin par le professeur Habert concernant l'obsession SRY. On s'est interrogé sur la différenciation de l'embryon vers une destinée mâle, mais on ne s'est pas interrogé sur les mécanismes qui gouvernaient la différenciation femelle. On considérait que c'était par défaut. De même, la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a des hormones qui interviennent dans le développement de la femelle ? Est-ce que c'est le nouveau champ pour des découvertes sur le développement embryonnaire ? Alors ces changements également, je vais passer là-dessus, mais disons, le paradigme un peu caricatural que j'ai présenté, il a été amplement transformé dans les années 70, en particulier par l'intervention d'un certain nombre de femmes. Et donc, on n'est plus du tout dans l'idéologie du mâle dominant, etc. Donc, et le mythe de la femelle chaste a été renvoyé dans les buts par notamment Sarah Erdi, qui a montré les comportements sexuels des femelles et insisté sur le fait que les femelles également se battaient entre elles, etc. Donc, il n'y a pas de raison de réserver les combats au mâle. L'attention au vocabulaire, c'est un point de divergence, je pense, entre Pierre-Henri Couillon et moi, c'est-à-dire je pense que le vocabulaire est extrêmement dangereux. Ici, Cronine demande si ça avait été les mâles qui choisissaient, est-ce qu'on aurait dit qu'ils étaient faussement timides, rétifs aux coïts, ou est-ce qu'on aurait dit qu'ils étaient prudents et avisés ? Et de la même manière, si les femmes avaient été avides de copulation, est-ce qu'on aurait dit « Oh, elles sont juste avides » ou est-ce qu'on aurait dit qu'elles étaient capricieuses, effrontées, etc. Voilà. Je n'en dis pas plus, je reste poli. Alors, critique du paradigme de Bateman également, c'est-à-dire on s'est interrogé sur le dispositif expérimental de Bateman. L'expérience que j'ai présentée de Bateman très rapidement, elle a été critiquée de plein de manières possibles. C'est-à-dire on s'est interrogé sur le fait que Bateman dit observer les comportements sexuels des mouches, en fait il les observe pas du tout, il récupère seulement des descendances mortes. Enfin voilà, donc dire que les mâles se comportent comme ça et les femelles se comportent comme ça, ça n'a pas été fait à partir d'une observation. Je passe à mon deuxième point, j'en ai trois, donc ça va être très chaud. Je vais aller très vite. Disons, voilà, l'idée ici générale, c'est, l'emprunte à John Roof Garden, enfin pour moi, elle a résumé un peu toutes ces choses-là, en particulier dans son livre de 2005, qui n'a pas été traduit, mais qui s'appelle Evolution's Rainbow, l'arc-en-ciel de l'évolution. En revanche, son deuxième livre a été traduit donc, en septembre dernier, et elle reprend un certain nombre de ses idées dedans, le gène généreux. L'idée, c'est de dire que bon, bah, dans la biologie, il n'y a pas seulement des mâles dominants et des femelles dominées, il n'y a pas seulement du dimorphisme, il y a pas seulement, enfin, il y a un certain nombre d'idées reçues sur le sexe dans la nature qui doivent être critiquées. Donc l'hétérocentrisme implicite, le fait que le sexe soit la propriété d'un individu, que dès la fécondation, le sexe de l'individu est défini, que le sexe soit un moyen pour l'espèce de se reproduire, que l'individu est soumis à une téléologie reproductive implicite, c'est-à-dire qu'on est fait pour se reproduire, etc. Tout ça, ça a été amplement critiqué. Et je pense que les présentations de ce matin ont assez bien montré tout ça, donc ça va me permettre de sauter toute cette partie. Mais disons, un ensemble de... Je vais m'arrêter là-dessus, parce que c'est drôle. Mais, enfin, je trouve ça drôle, mais... Voilà, un ensemble d'idées reçues sur le sexe. Par exemple, l'idée qu'on a un sexe une fois pour toutes dans sa vie et qu'il est déterminé par les chromosomes, ça a été remis en question par le fait qu'il ben, y a du transsexualisme chez les animaux, pas seulement chez des petits animaux qu'on peut écraser facilement, mais également chez des vertébrés. Donc, c'est des animaux beaucoup plus dignes parce qu'ils sont beaucoup plus proches de nous. Donc, voilà, le cas de Nemo, vous avez vu l'histoire. Ben, en fait, la maman se fait manger. Et puis, en fait, ce qui aurait dû se passer, c'est que le papa de Nemo aurait dû devenir la maman et Nemo aurait dû devenir son papa. Voilà, enfin, si j'ai bien compris. Hein, mais en gros, l'histoire n'a pas été racontée comme ça. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des phénomènes dans la nature, mais qu'on ne nous en parle pas toujours parce que ça ne correspond pas à la manière dont on se représente ce qui doit ou devrait se passer chez nous. Chez nous, chez les humains. Bon, je passe sur tout ça. Tac, tac, tac. Ouais, aussi, peut-être ça, juste. L'idée que le concept de genre a été utilisé, proposé... par Ruth Garden pour dire dans le genre animal, en fait, il n'y a pas toujours un seul type de mâle et un seul type de femelle. Il se peut qu'il y ait plusieurs types de mâles et donc elle a proposé d'appeler ça des genres chez les animaux. Donc par exemple chez les saumons, il y a plusieurs, ils sont pas homo mais c'est des saumons. Le mâle peut avoir plusieurs aspects. Donc quel est le type même du mâle, c'est difficile. Voilà, je passe là-dessus. Ça, c'est une provocation finale, c'est juste pour dire, en fait, indépendamment de la présence du genre dans la biologie, on peut s'interroger sur la présence du genre dans la science en général. Le fait que le scientifique a toujours été représenté comme un homme qui déshabillait une femme à la poitrine généreuse, vous voyez ici qu'elle a trois paires de seins, c'est la nature. Bon, Isis, le journal d'histoire des sciences, c'est toujours la même histoire, l'idée que c'est une bonne femme couverte de voiles et que les scientifiques doivent lui arracher ses voiles pour la voir toute nue. Francis Bacon, le fondateur de la révolution scientifique, disait qu'il fallait mettre la nature à la question, c'est-à-dire la torturer, etc. Donc il y a tout un ensemble de métaphores très importantes qui structurent la manière dont la pratique scientifique se pense et se structure, qui ont suggéré l'idée que le savant était potentiellement un violeur et que... paradoxalement, étrangement, les femmes et la nature avaient souffert donc, du regard scientifique de manière parallèle et qu'aujourd'hui, la crise écologique impliquait qu'on revoie tous ces a priori et peut-être même la manière de faire la science. Je dis ça très vite. Hein. Alors, je reviens à mes conclusions pour qu'on puisse discuter. D'abord, la deuxième partie là, sur Nemo, etc., ce que j'appelle un bestiaire queer, le fait que tout ne se passe pas comme la représentation classique de papa-maman, offre des ressources pour penser la nature différemment de ce que on veut faire dire à la nature en général. Donc, c'est ce que j'appelle un pied de nez au naturalisme conservateur. Évidemment, a priori, il n'y a pas de conséquences à en tirer pour l'espèce humaine, mais en tout cas, c'est des outils pour déconstruire la manière dont la biologie peut nous raconter... ce que nous sommes ou ce que nous devons être. Voilà. Donc un peu pour mettre en perspective les choses, considérer que dans la nature, être un mâle et être une femelle, ça n'a pas une signification universelle, à part peut-être la question des gamètes, mais hormis ce niveau strict des gamètes, c'est-à-dire produire des spermatozoïdes ou produire des ovules, il n'y a pas d'autre signification à en tirer sur ce que c'est qu'être un mâle et être une femelle. Donc, contre le naturalisme... dévorant, on va dire. Et la deuxième conclusion, c'est celle que je tire en particulier de la première partie, c'est d'inviter les biologistes à avoir un regard réflexif sur leurs métaphores, notamment par rapport à l'histoire de leur discipline, c'est-à-dire à prendre en compte que ben, par le passé, ils ont souvent cru avoir raison et puis ils avaient tort. Donc Ben on est toujours, on a l'impression qu'on est à la crête de la vague et qu'il ne se passera plus rien derrière. Ben bon, des métaphores peuvent être critiquées, seront critiquées, et voilà, et on ne sait pas où on va tellement. Donc voilà, utilisez peut-être le féminisme comme un outil de contrôle expérimental des biais. Merci beaucoup.
Bravo Thierry, et merci d'avoir laissé du temps pour la discussion, parce que je crois qu'on va en avoir besoin. C'est vrai qu'en citant tous les livres que tu as publiés, j'ai oublié de citer la traduction de John Ralph Garden, donc, que je vous conseille. Je suis personnellement, je connais depuis très longtemps Ralph Garden, mais je suis d'accord que partiellement avec ce qu'elle raconte aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'on va laisser la discussion se faire. Et parce que si je commence, je ne m'arrêterai pas. Alors, Non.
Je vais juste ajouter quelque chose par rapport au symbole. À l'entrée de la bibliothèque de médecine à Paris, de la faculté de médecine, rue de l'école de médecine, il y a une magnifique statue qui est une statue. Mais ça marche là ?
Oui, ça marche. Oui,
qui est une statue d'une très belle femme qui est en train de se dévoiler. Et au-dessous, c'est la science, c'est la nature se dévoilant devant la science.
Eh ben c'est la même.
Ouais, elle est passée rapidement.
Ouais. Est-ce que tu as étudié un peu la façon dont on genre ou pas les livres scolaires? Ça peut être intéressant pour les profs.
Ça a été très bien étudié sur la question de la reproduction, la manière dont les manuels de reproduction racontaient la fécondation, justement, dans les années 70-80. Il y a eu un article en particulier d'Emily Martin qui faisait la synthèse là-dessus, qui montrait qu'effectivement, on montrait que l'œuf faisait rien, en fait. Donc, je pense que ça a bien été expliqué ce matin. Hein. Depuis, il y a eu d'autres travaux qui ont été mis en place qui montrent qu'effectivement, si l'ovule ne fait rien, le spermatozoïde ne peut rien faire non plus. C'est-à-dire c'est pas le spermatozoïde qui rentre et qui pénètre. Il y a des récepteurs sur l'ovule. Il y a un mouvement. L'ovule guide le spermatozoïde. Enfin, voilà,
Même chez les plantes, il y a un laboratoire féminin donc de biologie végétale à Riverside qui a montré que si on met des petites billes de plastique sur le stigmate d'une plante, eh bien, ces billes de plastique vont se diriger jusqu'à l'ovule. De façon parfaitement passive, donc en fait, ce qui montre qu'en fait le pollen ne va pas à l'ovule, le pollen pousse bêtement et c'est la femelle qui emmène le spermatozoïde jusqu'à l'ovule dans la plante. Donc ça, effectivement, sur ce plan-là, les recherches menées par des groupes de femmes sur les questions de reproduction ont beaucoup apporté, même si parfois, à mon avis, elles sont allées un petit peu loin dans leurs conclusions. Mais on y verra après.
Vous êtes là et vous êtes nombreux, comme on l'a vu ce matin. Il y avait des participants uniquement mâles. Pour pouvoir redresser le gouvernail dans l'autre sens.
Non, c'est pas ça. Vas-y.
Mais peut-être qu'on peut avoir aussi une autre réflexion sur la fixité du sexe. Pendant des années et des années, on a cherché à inverser le sexe des individus. Et on avait réussi assez facilement à inverser le sexe des vertébrés inférieurs ou des invertébrés par des traitements expérimentaux. Et on n'a pas réussi à inverser le sexe des mammifères. Les oiseaux, on y arrivait assez facilement aussi en ajoutant des estrogènes sur des embryons d'oiseaux dans l'œuf. On peut inverser le sexe aussi comme ça. Et très probablement, ceci a marqué les esprits. C'est-à-dire qu'on a pensé, et c'est vrai que le sexe des mammifères est... extrêmement fixe par le déterminisme génétique, alors que le sexe des non-mammaliens peut être influencé par l'environnement. On l'a vu tout à l'heure avec les parasites, tandis que le sexe des mammifères, pour inverser le sexe des mammifères, il faut faire une manipulation génétique. Et les manipulations génétiques, il n'y a pas très longtemps qu'on sait les faire. On a su inverser le sexe d'une gonade qui devait se différencier dans le sens femelle en insérant le gène SRY dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est en 1994, où en insérant, en faisant une manipulation génétique, on fait dévier un organisme qui devait aller dans le sens femelle vers le sens mâle. Et c'est seulement il y a 2 ans qu'on a su faire l'inverse. Donc, très probablement que c'est ce fixisme du sexe imposé par la génétique, par les chromosomes XX ou XY, complètement influencé la pensée quelque part, la biologie des mammifères, la biologie de la souris, les gens qui travaillent sur la biologie de la souris, les gens qui travaillent sur la biologie des mammifères, ont une conception différente du sexe par rapport aux gens qui travaillent en biologie animale, de façon plus générale sur les autres espèces ou en biologie des végétaux.
Non, disons, en fait, c'est vrai que dans mes conclusions, je disais, est-ce qu'on peut tirer des conséquences pour l'humain de tout ça bon, effectivement, c'est pas parce que les cloportes changent de sexe s'ils ont des Wolbachia que nous, ça veut dire qu'on peut changer de sexe si on aura des Wolbachia, donc c'est pas la même chose. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que quand on parle du sexe dans la nature, le sexe comme mécanisme de reproduction, ou quand on parle des sexes, c'est-à-dire des mâles et des femelles, on a l'impression que c'est des mots qui veulent dire la même chose dans toute la nature. C'est quelque chose de la nature. Et donc déjà de prendre conscience que ça ne se passe pas pareil dans d'autres espèces, etc., ça vide, je trouve, la puissance déterministe de ces mots, le fait qu'ils aient quelque chose de... On a l'impression que c'est quelque chose vraiment d'incontournable, de nécessaire, etc. Si on se rend compte que, en fait, ça dépend déjà selon l'espèce ou le groupe d'espèces qu'on considère, déjà, on a une perception différente de ce que c'est que le sexe. Donc ensuite, est-ce que ça veut dire que pour notre espèce, il y a des règles inflexibles, etc. C'est ça la question. Mais le problème, c'est que quand on raisonne sur l'anisogamie, on raisonne sur un truc qui vaut pour les drosophiles, donc des invertébrés, et les mammifères. Et on ne prend pas du tout en compte le fait que c'était l'image de... Enfin, ces deux images, voilà. Il y a des espèces de vertébrés chez qui il n'y a pas de dimorphisme sexuel apparent, et puis d'autres chez lesquels on dit qu'il y a une inversion des rôles sexuels, c'est-à-dire au lieu que ça soit le mâle qui est avide, c'est la femelle qui est avide. Et le mâle, il a une coloration plus terne et il est au nid. Alors, d'accord, c'est des cas rares, on va dire, mais pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi ça se passe comme ça si le raisonnement de l'anisogamie, il est le bon ? Donc il y a plein de questions qui sont posées... par justement ce que j'appelle le bestiaire queer, quoi, c'est-à-dire par le fait que il n'y a pas de généralité, c'est difficile de trouver des généralités.
Peut-être que je pourrais ajouter un petit mot là-dessus, et justement je trouve que c'est un sujet intéressant. Effectivement, on constate une corrélation entre le fait de produire des gros gamètes et le fait d'investir beaucoup dans la production du descendant, c'est une corrélation statistique sur l'ensemble du monde vivant. Et là, tu as parfaitement raison, ce n'est pas une causalité totale. C'est-à-dire que, évidemment, il existe, il y a les hippocampes, enfin, tous ces cas qu'on appelle d'inversion, c'est des cas où le mâle investit plus que la femelle dans la survie des descendants. Bon. Ceci dit, chez nous, il se trouve que malheureusement, ça, ce n'est pas entièrement social, parce que l'investissement dans le descendant, dans une espèce comme la nôtre, il est quand même très largement biologique, puisqu'effectivement, pour le moment, en tout cas, on n'a pas encore réussi à faire que ça soit l'homme qui porte les enfants dans un utérus artificiel ou je ne sais quoi. Et donc, on a un exemple, bien sûr, d'un très célèbre monsieur barbu et enceint. Mais en fait, il s'agit d'un transsexuel. Hein. Il fait payer ses photos très cher, d'ailleurs. Hein, quand on les met dans j'en ai mis une dans mon bouquin, ça nous a coûté. Bref. Mais je voudrais vous dire qu'à partir de là, voilà, le problème qui se pose, c'est que tout le monde se met à faire la même erreur et à vouloir aller trouver des règles de conduite pour les humains chez les animaux. Alors, on a trouvé des règles de conduite idiotes dans un système machiste chez les animaux, et voilà que maintenant, les féministes vont vouloir nous faire le même coup dans l'autre sens. Et là, c'est pas plus malin.
Non.
Alors, je voudrais vous donner un exemple.
C'est pas vrai.
Je voudrais vous donner un exemple. On a dit, et ça a été, tu l'as très bien montré, que effectivement, si un mâle se débrouillait pour avoir beaucoup de partenaires, eh ben, il augmentait son nombre de descendants proportionnellement à son nombre de partenaires, et donc il n'y avait quasiment pas de limite. Alors qu'une femelle, dans notre espèce, il y a une nécessaire limite. Bon, et ce qui nécessairement change les règles du jeu de la sélection naturelle entre les deux sexes. Une critique a été faite parce qu'il y a des laboratoires dans lesquels on a montré que si une femelle de drosophile, déjà chez plus des humains, hein, avait plusieurs partenaires, eh bien elle produisait plus d'œufs que si elle n'en avait qu'un. Et au début, ça a été proposé comme une preuve du fait que la femelle pouvait être sélectionnée pour avoir plus d'un partenaire puisqu'elle augmenterait son taux de reproduction grâce au fait qu'elle a plusieurs partenaires mâles. En fait, ce qu'on a découvert depuis, c'est que les mâles, et particulièrement quand ils sont plusieurs à s'accoupler avec une femelle chez les drosophiles, mettent dans leur sperme un produit qui divertit les ressources de la femelle en direction des œufs. Vous voyez l'idée, hein ? Une femelle, si jamais elle essaye de régler son investissement dans sa propre survie par rapport à ce qu'elle investit dans ses œufs, il existe un investissement optimal. Le mâle, il n'a pas intérêt à ce que soit cet investissement-là qui soit réalisé. Il a intérêt à ce que la femelle investisse plus dans les œufs que ce qu'elle voudrait.
Bon, tu bouffes mon temps de parole, là.
Excuse-moi. Et donc, dans son sperme, bon, il met... Bah oui, mais je vois que tu me réponds à ça. Dans son sperme, il met des produits qui influencent la reproduction de la femelle en direction des œufs et qui diminuent, du coup, la durée de vie de la femelle. Donc, finalement, elle fait plus d'œufs, mais elle fait moins de... Elle vit moins longtemps. Donc, voilà. Mon problème, c'est que je trouve qu'effectivement, à l'heure actuelle, ces manip-là, sont reprises aussi bêtement qu'avant, mais dans l'autre sens, pour prétendre qu'on a démontré que les femelles sont sélectionnées pour avoir beaucoup de partenaires. Je pense que c'est pas plus malin.
Mmh. Ok. Alors d'abord, j'ai deux points sur lesquels il faut te répondre. D'abord sur l'idée de l'usage du bestiaire. Moi, j'ai pas un usage dogmatique du bestiaire. Je dis pas mon bestiaire, il est queer. J'ai dit, c'est-à-dire, je dis pas. Voilà ce qui se passe dans la nature, et donc ça veut dire des choses pour notre espèce. Non, je dis juste, voilà ce qui se passe dans la nature, et donc évitons de tirer trop vite des généralités pour notre espèce. Donc c'est pas un usage dogmatique, c'est un usage critique, sceptique du bestiaire. Utilisons l'histoire naturelle pour aller doucement quand on parle de ce que c'est que le sexe, de ce que c'est qu'être un mâle, de ce que c'est qu'être une femelle, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les femelles assurent la gestation et la lactation chez les mammifères, certes, et notre espèce est concernée, certes. Moi, jusque-là, je veux bien te suivre. Le problème, c'est qu'on n'est pas simplement des espèces qui assurent la lactation, etc. On est des espèces culturelles. On est une espèce culturelle, voilà. Et donc là, je vais être un peu anthropocentrique, hein, c'est-à-dire je vais un peu affirmer la différence humaine par rapport aux autres espèces. C'est-à-dire, moi, là, où je veux bien, hein, les femelles assurent la gestation et la lactation en partie, si elles le veulent, aujourd'hui, etc. Moi, le problème, c'est quand on me dit, j'ai eu des conversations avec des biologistes qui me disent, mais quand même, aujourd'hui, la société va à volo parce que les femmes veulent s'arracher à cette destinée gestationnaire et lactationnaire. C'est-à-dire, elles ne veulent plus faire des enfants et elles ne veulent plus allaiter. D'accord. Et donc, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est rare qu'on s'en tienne à ça. C'est-à-dire qu'on s'en tienne à dire les femelles portent les enfants, les femmes portent les enfants et les allaitent. On dit aussi, et donc, elles doivent rester à la maison, et donc, elles ne font pas de science, et donc, tout s'ensuit, en fait. Et tu peux dire, toi, tu es un progressiste, donc tu ne dis pas ça. Mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est associé. Donc c'est là qu'il faut faire attention à qu'est-ce que ça veut dire le sexe d'un individu. Et c'est là que je dis le sexe d'un individu, ça veut dire produire des gamètes d'une manière ou d'une autre. C'est ce que nous apprend la biologie.
Non, mais en revanche, donc, tu es d'accord avec le fait que puisque les mammifères sont comme ça, la condition de la sélection chez les mammifères, elles se sont faites dans ces conditions-là où les femelles sont très plafonnées en termes de fitness et pas les mâles.
Disons que, effectivement, les exemples que je donne ici, je donne des exemples d'oiseaux, voilà, je ne donne pas des exemples de mammifères. Voilà, donc, effectivement, les mammifères, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Les mammifères ne pondent pas des œufs, enfin, pas tous, ou pas principalement. Voilà. Donc, effectivement, il y a des choses à prendre en compte. Okay. Mais la question, c'est, pour notre espèce, qu'est-ce qu'on veut en déduire ? Et le problème, c'est que si on donne à un biologiste ça, c'est-à-dire, effectivement, les femelles humaines portent les enfants et les allaitent, si elles veulent, à partir de là, tout s'ensuit. Tout s'ensuit, ça veut dire, tout s'ensuit, ça veut dire, elles doivent rester à la maison, elles doivent pas faire de science et rien d'autre d'ailleurs. Enfin voilà. Donc c'est là-dessus qu'on doit être extrêmement vigilant et c'est là-dessus, je pense que le bestiaire queer, il doit nous aider quoi, à nous détacher par rapport à ce que ça veut dire sexe comme reproduction, sexe comme mâle femelle, etc.
tous les biologistes ne sont pas comme ça, heureusement. On a d'autres manières de penser. Par exemple, on peut parfaitement comprendre que le sexe n'est pas identifiable au comportement sexuel, qu'il y a deux choses différentes. On l'a vu tout à l'heure, vous l'avez présenté finalement en nous parlant des espèces qui étaient susceptibles de changer de sexe, puisqu'on voit très bien que une femelle qui va changer, qui va devenir un mâle, ou un mâle qui va devenir une femelle au cours de son histoire de vie, est à ce moment-là capable de changer de comportement. Et on voit donc une femelle qui au départ est femelle, qui va avoir un comportement de mâle quand elle sera en phase mâle, ou un comportement de femelle quand elle est en phase femelle. On voit donc qu'il y a une plasticité énorme et qu'il ne faut pas du tout confondre sexe et comportement sexuel. C'était juste...
La dernière, malheureusement.
Oui.
Oh, on a commencé avec un peu de retard. Hein, un peu.
Pardon. À propos d'enchaînement logique, tout à fait au début, vous avez présenté... Ah bon. Donc à propos d'enchaînement logique, tout à fait au début de votre exposé, vous avez cité naturellement les écrits de John Scott et en montrant tout le travail qu'elle a apporté pour la définition du genre. Et alors là, tout de suite après, vous êtes passé immédiatement à l'administration des intersexes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la charnière entre ces deux? Parce que c'était très brutal et je n'ai pas compris comment vous passiez de l'un à l'autre.
Disons que ce que j'ai voulu dire, c'est que le concept de genre, il a été, bon, c'est ce qu'on lit dans les livres, hein, il a été formulé d'abord dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans l'idée qu'il fallait détacher le sexe biologique et, entre guillemets, le sexe social, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait, les individus pouvaient avoir des chromosomes comme ci ou comme ça, et que pourtant, on pouvait leur donner une personnalité différente. C'est-à-dire, vous pouvez être un XY et on peut vous élever comme une femme. Voilà. Et vous vous sentirez femme, vous serez parfaitement bien comme une femme si on vous élève comme une femme. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme entre vos chromosomes et votre identité sexuelle, sociale, si vous voulez. C'est ça, du coup, qu'on a appelé le genre au début. C'est-à-dire le genre, ce n'était pas réductible au sexuel.
Pardon. On a appelé ça aussi, avant que John Scott écrive, les rapports sociaux de sexe.
D'accord, mais ça, c'est la polémique entre les féministes françaises et les féministes américaines. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça ne m'intéresse pas.
Alors, après, comment vous passez directement aux intersexes?
Comment ça? Ben, j'ai expliqué comment, sur le cas des intersexes, on voit comment l'idée qu'on peut détacher un niveau qui a un rapport avec le sexe, mais qui est plus ancré dans le corps. Voilà. Qui est en rapport avec le sexe au sens où on oppose du masculin et du féminin, une identité masculine et féminine. Voilà. Le masculin et le féminin sont plus liés au fait d'avoir une biologie, une formule chromosomique, pour être exact, de mâle ou de femelle, voilà. Merci.
Ouais. Oui, une question. Une
petite question au fond.
Une dernière question.
Oui. Les XX sont prioritaires.
voilà, je vous écoute depuis ce matin et j'avais une question peut-être basique, mais je voulais savoir quand est-ce qu'on a vraiment découvert scientifiquement qu'il fallait un homme et une femme pour la reproduction. Et est-ce que ça a changé à ce moment-là? Le comportement de l'homme.
Je pense qu'Homo sapiens l'a découvert avant même d'être Homo sapiens. Hein,
là, j'imagine qu'il fallait les deux. On était les scientifiques, en fait.
Je pense que ça, il n'y a vraiment pas besoin d'être...
Plus qu'un homme et une femme, en fait, la question, c'était quelle est la contribution respective de chacun des deux sexes à la reproduction, en fait. C'est-à-dire, quelle est la contribution? Est-ce que, par exemple, le mâle, l'homme, a juste une fonction d'excitation d'un petit embryon qui serait tout prêt dans la femelle et qui attendrait de se développer? Ou est-ce qu'au contraire, le mâle apporte tout et la femelle, c'est juste un terreau, elle donne à manger, voilà.
Donc, je vous ai montré ce matin une image des animaliculistes. Il y avait leurs opposés qui étaient les ovistes qui pensaient que c'était l'œuf qui contenait l'enfant et que le mâle faisait juste qu'une excitation, comme vient de le dire Thierry. Le fait que le descendant procède génétiquement des deux, bah, il a fallu attendre d'étudier la loi de l'hérédité. Donc c'est dans la fin du 19e siècle que ça s'est compris vraiment.
Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que
Les pucerons ont servi d'éléments forts pour soutenir les ovistes.
Comme vous l'avez compris, il n'y a pas que chez les saumons qu'il y a différents types de mâles. Il y a des mâles dominants et des mâles plus furtifs. Et donc, dans l'espèce humaine, c'est pareil. Donc, on va s'arrêter.
Il te reste encore 3 minutes d'après.
On va s'arrêter là. Merci.
Bien, donc maintenant nous avons une table ronde, hein, c'est ça? Donc avec trois personnes. Donc Alexandre Jonnet, donc qui est docteur en sciences politiques de l'IEP de Paris, maître de conférence à l'université de Poitiers, et chargé d'enseignement à Sciences Po Paris et Poitiers. Travaille sur la sociologie du droit, la sociologie et la théorie du genre, et il a publié différents ouvrages, dont l'introduction aux gender studies et éthique, morale et déontologie. Si, je vais les présenter un par un. Je ne peux pas faire tout en même temps. Donc, Priscille Touraille, qui est chargée de recherche au CNRS, tu viens ? Qui travaille au laboratoire d'éco-anthropologie et d'ethnobiologie du Muséum d'histoire naturelle. Qui a travaillé sur les problématiques du genre, l'adaptabilité et l'évolution, et l'alimentation, qui a comme caractéristique d'essayer de travailler à l'interface vraiment entre la biologie et les sciences humaines, et qui a publié « Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse ». Que je vous conseille. Et puis, enfin, Ludovic Gosseau, qui est donc maître de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers, membre du groupement de recherche sur études en études sociologiques du Centre-Ouest et chercheur associé à Culture Société Urbaine, qui travaille sur le sexe et le genre, l'alcoolisme, le masculin et le féminin, toutes les tares, quoi, et les rapports sociaux de sexe. Et il a publié aussi plusieurs ouvrages, dans Faire justice soi-même, La dynamique de la violence, La haine, Modération et sobriété, et enfin Alcool et alcoolisme. On va les prendre dans l'ordre où ils sont marqués dans le programme. Et okay. Puis voilà.
Là, vous m'entendez ? Je touche à rien, ça marche. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Alors, merci à Anne Bonnefoy, évidemment, pour son invitation aussi. On a 25 minutes et on m'a dit que mon président de table était redoutable. C'est vrai que j'ai un petit peu peur, du coup. Donc, je vais essayer de lire mon texte pour être sûr de faire exactement 25 minutes. Alors, il va y avoir des répétitions avec ce qui a été dit avant. Enfin, il vaut mieux dire que c'est complémentaire quand on ne s'est pas préparé ensemble. Je vais revenir bêtement, mais du point de vue des sciences sociales, sur la question de cette paire sexe-genre. Je voudrais aussi défendre que l'idée, maintenant en tout cas, que je n'ai pas du tout le sentiment que les féministes ou les sociologues du genre inverse un petit peu les erreurs qui ont été faites dans un sens à certains égards, parce que justement il y a des choses qu'on a apprises, et je trouve assez remarquable de voir qu'il y a des débats sur le concept de genre et qui s'est reformulé, et c'est un petit peu là-dessus que je vais essayer d'insister pédagogiquement sur les avatars notamment du terme de genre. Et je précise juste qu'on a publié effectivement une introduction aux études sur le genre. L'éditeur avait, en 2008, demandé à la première édition que ce soit des gender studies, parce que ça se vendait mieux, comme on dit la théorie du gender, parce que c'est mal aujourd'hui, pour dire que c'est américain. Mais on a refrancisé ça. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Que veut dire le genre précède le sexe ?», qui est une formulation un peu bizarre, et je voudrais justifier ce titre, préciser ce dont je veux vous parler, et puis poser quelques questions, notamment des questions en particulier du domaine du droit. La phrase « le genre précède le sexe », elle s'inscrit dans une histoire déjà relativement longue de la réflexion des études sur le genre et donc du concept de genre et de ce qu'il cherche à dire. Alors j'impute la formule, et c'est le cas, « le genre précède le sexe » à Christine Delphi dans un texte important. Christine Delphi qui est donc une militante, une sociologue, une féministe du genre, sociologue du genre, dans son texte qui s'intitule « Penser le genre » et qui a été publié la première fois en 1991. J'aurais pu utiliser Butler, mais je trouve que pédagogiquement, c'est intéressant de reprendre justement le travail de reformulation de Delphi. C'est un texte important pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé ou qui travaillent sur le genre, parce que c'est aussi un texte très pratique, parce qu'il propose de faire une espèce de bilan historique de cette pensée du concept de genre, et qui dit bilan historique du concept de genre, dit bilan de la paire sexe-genre dont on a déjà parlé. Les deux termes sont-ils similaires, sexe et genre ? À quoi renvoie l'invention du terme de genre ? Et évidemment, d'un point de vue épistémologique, qu'est-ce qui est premier, le sexe ou le genre ? Pour le dire très simplement, mais c'est ça qui changera dans les études sur le genre justement, on part d'une espèce d'évidence, il y a le sexe comme un matériau biologique brut, et puis il y a une part sociale, quelque chose de social qui exprime ce sexe ou qui contrarie éventuellement ce sexe, quelque chose de construit en d'autres termes. C'est ce qu'on a appelé dans une première époque le genre. Du coup, c'est difficile de comprendre la formule de Delphi lorsqu'elle dit que le genre précède le sexe, parce que c'est compliqué de donner du sens à cette proposition. Comment est-ce que l'expression sociale de quelque chose pourrait précéder cette chose? On a une ambiguïté à ce stade. Je voudrais justement montrer que la proposition de Delphi, elle fait sens pour illustrer une espèce de direction qui a été prise au moins depuis les années 90 dans les études sur le genre, même si la périodisation est évidemment approximative, et une direction qui explique ce pourquoi les études sur le genre s'intéressent de plus en plus aux questions biologiques, se réconcilient avec cette idée plutôt que de les balayer d'un côté en disant « nous on s'occupe du social et puis le biologique ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas le voir » ou alors c'est du discours. Pas du tout ça qui se passe depuis quelques années et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Dans cette direction, notamment, il y a des définitions du genre qui sont concurrentes. Et ça, c'est un point important. Et c'est des définitions concurrentes au moment, me semble-t-il, où le genre est un terme qu'on voit émerger dans l'espace public plus que jamais et dans une certaine confusion. J'insisterai là-dessus à la fin du texte. Du genre, on en mange à tous les repas aujourd'hui. Il est absolument partout. Et de façon assez bizarre, il est devenu une espèce d'euphémisme dans certains discours pour dire le sexe. On ne dit plus le sexe, on dit le genre. Et comme on a dit les femmes pendant un moment, où les deux occurrences peuvent être utilisées au même moment. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit le genre à la place du sexe? J'en suis pas sûr, mais il semble en tout cas que dans un monde libéral, il vaut mieux, du côté de certaines sciences en tout cas, éviter de parler de sexe, comme il faut éviter de parler de gènes, ou il faut éviter de parler de chromosomes, parce que ça renvoie à la biologie. Et ce qui est biologisant, bah, c'est un petit peu raciste, c'est illibéral, donc il ne faut pas en parler comme ça. Donc en disant genre tout le temps, en éliminant le terme de sexe, eh ben, c'est un positionnement relativement économique, on ne prend pas de risque. Du coup d'ailleurs, si on est conservateur, à l'inverse de la position libérale, eh ben, on défend la nature, donc on défend le sexe, et donc on agonise le genre. Et j'avais vu ce brillant résumé de cette idée dans une pancarte de la manif anti-mariage, que je trouvais extrêmement drôle et intéressante. On veut du sexe, pas du genre. Voilà. C'était une proposition intéressante, même si ça parlait de sexualité. Ici, sexe voulait dire sexualité. Mais c'était intéressant comme reformulation. Donc je voudrais revenir sur l'histoire de la persexe-genre dans les études sur le genre pour essayer de préciser différentes étapes, au moins deux étapes de la pensée du genre, donc les reformulations du concept. Et puis ce paradoxe que je viens de décrire, consistant à employer assez confusément un terme pour un autre, alors même quand même qu'on a inventé un terme pour signifier autre chose que le sexe à un certain moment donné. Donc il y a une historicité de ça qui est très importante et qui lève le voile sur un certain nombre de changements paradigmatiques, à la fois de la notion de sexe, à la fois de la notion de genre, et peut-être ce qui englobe tout ça. Alors mon but ici, je le précise tout de suite, c'est pas d'évacuer la confusion par une espèce de meilleure définition, même si je pense qu'il y a des définitions qui sont plus cohérentes, mais plutôt de saisir des transformations historiques du côté du sexe, du côté du genre. Donc en quelques minutes, la paire sexe-genre, avec des choses bien connues, il y a une première étape de cette pensée qu'on appelle rétrospectivement la pensée du genre, mais ce n'était pas encore ça, et une première définition du terme. Donc, très rapidement, sur la base de tout un tas de travaux qui sont entamés, notamment dès les années 30 en anthropologie, chez Margaret Mead, dans ses travaux sur l'Océanie, sur des travaux qui ensuite ont été peut-être assez somptueusement ramassés par la formule de Simone de Beauvoir, « on n'est pas femme, on le devient », eh bien, dans les années 60, on va commencer à formuler un constat important. Dans ce qu'on appelle, même si ça paraît évident, ça ne l'était pas quand même, dans ce qu'on appelle couramment le sexe, notre façon de distinguer à la fois les hommes et à la fois les femmes, et de les qualifier de façon différentielle, il y aurait quelque chose de social. Les comportements, les attitudes, les émotions, le tempérament, la psychologie, tout ça, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas nécessairement déterminé. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que c'est social, on essaye de dire... Mais il n'y a pas un déterminisme biologique qui s'applique à ça et qui soit lié à nos capacités reproductives ou à notre sexe biologique. Bref, s'il y a un sexe, ce qu'on ne pense même pas à contester à l'époque, il y a aussi un sexe social, et c'est peut-être la première occurrence du terme genre, tout un tas de choses comportementales qui ne sont pas strictement déterminées par la biologie. En ce sens, il existe une certaine autonomie du sexe social par rapport au sexe naturel. C'est le vocabulaire de l'autonomie qui prédomine à cette époque. Alors évidemment, cette proposition, elle peut être bonne ou mauvaise. Si on est naturaliste, si on est conservateur, on considère peut-être que les mâles biologiques doivent être masculins et les femelles biologiques doivent être féminines. Mais si on est libéral, on peut penser absolument le contraire. On peut penser ce qu'on veut, surtout en mai 68, un peu dans l'époque où on est en train de discuter ça. Qu'il faille ou qu'il ne faille pas, c'est une autre question, mais en train de dire qu'il y a peut-être une autonomie. Il y a du jeu entre les deux parce qu'il n'y a pas de déterminisme, notamment parce que c'est social. Alors, comme ça vient d'être dit dans l'exposé précédent, le terme de genre, il date à peu près de cette époque, et c'est vrai qu'on peut l'imputer apparemment à des personnes comme Money, à des personnes comme Stoller et Hart, qui sont, et ça c'est important aussi, des psychologues, des sexologues, qui travaillent en particulier sur la clinique de la transsexualité. Ça a une importance fondamentale pour eux. Donc, c'est eux un peu qui, dans cette espèce de saisie psy du genre, qui établissent l'idée qu'il y a le sexe, des simples et efficaces en même temps, qui est biologiquement déterminé, et puis il y a le genre, qui est social et psychologique, le fait de s'identifier à un sexe ou à un autre. C'est pas très politique comme déclaration à l'époque, même si on peut y voir de la politique derrière. C'est-à-dire qu'ils ne se prononcent pas sur le fait de savoir si c'est par liberté ou par traumatisme, mais à partir du moment où il y a et le sexe et le genre, et que c'est pas exactement la même chose, et ben on peut être un garçon sensible ou une fille qui bricole. Ils n'ont pas un avis extrêmement punitif là-dessus, même s'il y a beaucoup de normativité quand même dans leurs travaux. Donc, c'est un peu le moment fondateur des études sur le genre, un moment fondateur qui est intriqué dans les mouvements politiques des années 70. Alors, généralement, on cite l'ouvrage d'Oakley, Sex, Gender and Society, en 1972. Et c'est vrai que des féministes donneront cette fois-ci un contenu très politique à cette séparation entre le sexe naturel d'un côté et le sexe social de l'autre. Si le sexe est biologiquement déterminé, ce n'est pas le cas de l'inégalité. C'est ce qu'on essaye très simplement de formuler à cette époque. Et on constate, effectivement, on pense à travers les lunettes de l'inégalité, parce que ce sexe social, ben, il renvoie à l'époque à tout un ensemble d'inégalités entre les hommes et les femmes qui font système. Du coup, on peut jouer, une fois qu'on a dit ça, le genre contre le sexe, ce qui est une métaphore très oppositionnelle, et elle l'a été longtemps, pour dire que les inégalités, elles n'ont rien à voir avec la nature, et que le coût du travail, par exemple, n'est pas inscrit en chiffres microscopiquement sur nos parties génitales à la naissance, qu'il n'y a pas de déterminisme dans ce domaine. Et donc qu'on peut saisir en quelque sorte ce concept de genre contre l'idée de sexe qui établirait du déterminisme en tant que tel. Comme l'écrit Delphi, parce que c'est un bon guide à travers ces transformations, je trouve, dans les années 80 et maintenant encore, le sexe est conceptualisé comme une division naturelle de l'humanité, la division mâle-femelle. Division dans laquelle la société met son grain de sel. C'était aussi ma vision. C'est de là que, comme tout le monde, je suis parti. C'était déjà une avancée considérable que de penser qu'il y avait, dans les différences de sexe, quelque chose qui n'était pas attribuable à la nature. Cette étape, elle paraît peut-être évidente, elle ne l'était pas du tout. Et on voit encore, si on s'intéresse à la psychologie de bazar ou à la psychologie évolutionniste ou même à l'anthropologie comportementale, que ce n'est pas du tout évident qu'il n'y ait plus de déterminisme ou une pensée du déterminisme de ce point de vue-là. Ce qui est important, c'est que ça a permis de construire un appareil critique très efficace pour parler de hiérarchie, pour parler de relations de pouvoir, et surtout pour dénaturaliser les rôles de sexe et arrêter de tout justifier systématiquement par l'idée de la nature, surtout la position des dominants. Bref, la première étape, elle est là, et c'est une construction fondamentale. S'il existe deux sexes naturels, il existe au moins, parce que le social, c'est toujours un peu plus pluriel que le biologique, il existe au moins deux sexes sociaux. Il pourrait y en avoir plus, mais s'il y a deux sexes naturels, il y a au moins deux sexes sociaux, et puis on peut les inverser, les croiser, en trouver un troisième, et il y a des régimes d'anthropologie qui montrent ça parfaitement. C'est la deuxième étape qui m'intéresse à ce stade. Pour les chercheurs en sciences sociales, c'est une question qui a aussi très bien été reformulée par Christine Delphi quand elle relit ses propres travaux. Elle écrit, quand on met en correspondance le genre et le sexe, ça fait absolument écho à l'intervention précédente, est-ce qu'on compare du social à du naturel, ou est-ce qu'on compare du social avec encore du social? C'est pas si simple de comprendre cette phrase, mais elle est importante, épistémologiquement notamment. Dans la question des différences entre hommes et femmes, l'invention utile du terme de genre a en quelque sorte pour elle des effets pervers. Et Butler est d'accord avec ça, et Thomas Laker est d'accord avec ça à l'époque. Il va falloir renvoyer le concept de genre chez son constructeur, parce qu'il y a quelque chose qui pêche par là, et notamment dans la capacité de construire un vocabulaire critique. Parce qu'en effet, avec le concept de genre, on a fabriqué un matériau entièrement social, qui est donc susceptible de critique et de réforme. Mais ce que Delphi et en fait beaucoup d'autres, je l'utilise comme un guide, mais en particulier Butler, ont très bien dit, c'est que ce faisant, avec ce concept de genre, on a extrait du sexe toute sa part sociale, Et on se retrouve à plus pouvoir critiquer le sexe. Parce qu'une fois qu'on l'a complètement vidé de ses aspects sociaux et qu'on a dit bah, l'inégalité, ça c'est social, tout ce qui est social, on peut le bouger, mais pas le naturel, et ben on a un problème parce qu'on se retrouve la langue pendante devant précisément ce concept de sexe. On peut certes dire que le social n'est pas déterminé par le naturel, mais comme le naturel précède le social, il affirme en même temps une forme de privilège épistémologique, le privilège épistémologique de la nature sur la culture. La culture est seconde et secondaire, si le naturel est premier. La nature ne cesse pas d'affirmer son antécédence à cet égard, et l'invention du terme de genre, paradoxalement, contribue à une très forte renaturalisation du concept, de l'idée même de sexe. Et on n'arrive pas, à ce moment-là, à ce moment un peu critique dans la pensée, dans les sciences sociales en particulier, à s'arracher à la viscosité, au caractère gluant qui pèse comme une enclume sur tout le vocabulaire de l'émancipation, ben parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ce sexe hyper naturel par rapport à ce genre hyper social. Et on peut dire qu'il y a d'autres livres, effectivement, et d'autres ouvrages et d'autres travaux qui sont venus infuser un peu cette formulation que je fais passer par Delphi. Et c'est vrai qu'il y a La fabrique du sexe de Thomas Laker, et c'est vrai qu'il y a Gender Trouble, tous les deux dans les années, tous les deux en 1990, si je me souviens bien. Laker, notamment, a été un des premiers historiens dans Making Sex, La fabrique du sexe, un des premiers historiens très diffusés, surtout, de portée mondiale, à s'être intéressé à la notion de sexe en montrant que là où nous voyons à l'évidence des différences anatomiques fondamentales et qui les définissent entre les hommes et les femmes, eh bien, les Grecs ou les gens du Moyen-Âge voyaient autre chose, un même sexe, on connaît l'histoire, soit un sexe rentré pour les femmes, soit un sexe sorti, mais c'était le même pour les hommes. Mais le plus important, je crois, chez Laker, c'est l'idée que les marqueurs biologiques qui nous apparaissent premiers, fondamentaux et définitionnels, eh bien, ils sont très secondaires à d'autres époques dans la façon dont on pense le sexe, le genre, le concept n'est pas clair. Autrement dit, que personne n'aurait fait du pénis ou du vagin le marqueur infaillible de la différence à certaines époques, et c'est toujours vrai dans d'autres sociétés que la nôtre. Autrement dit encore, que ce sont des conceptions sociales et des rôles qui différenciaient, et non pas l'anatomie ou quelque chose d'encore plus microscopique. Le genre des rôles, en quelque sorte, précédait ce que nous appelons le sexe au sens anatomique dans la construction d'une réalité commune. Le plus important dans l'ensemble des démarches de cette deuxième étape, en quelque sorte, c'est qu'on a commencé sérieusement à s'intéresser au sexe et à la biologie, en particulier dans les sciences sociales. La critique du genre social opposé au sexe naturel invite à remettre en question la dichotomie nature-culture. L'idée qu'il existe une nature absolument pré-sociale d'une part, et puis l'idée qu'il existe du social qui n'a absolument rien à voir avec la nature d'autre part. En quelque sorte, les impasses de la dichotomie en sciences sociales, eh bien, elles font pléonasme avec les impasses de cette définition sexe naturel, genre social. Et c'est vrai que sexe, genre, nature, culture, biologique, sociale, ben, ce sont analogiquement des structures extrêmement homologues et elles nous entourent, elles font une cosmologie de ce point de vue-là. Lorsque Delphi se demande si en comparant le sexe et le genre, on ne compare pas du social à du social, elle se demande, et c'est là qu'on est au cœur des travaux contemporains, si le sexe n'est pas déjà quelque chose de social. Et c'est vrai qu'après tout, dans le langage commun, quand on parle de la guerre des sexes, par exemple, on n'imagine pas du tout sur un champ de bataille des pénis et des vagins en train de se battre en duel ou quelque chose comme ça. Ce qui est social dans le sexe pour elle, et ça mérite d'être précisé, et pour d'autres qu'elle, c'est le rapport de catégorisation et d'hierarchie qui guide la façon dont on appréhende et on conçoit le sexe, que ce soit dans une version biologique et scientifique ou que ce soit dans la façon dont on pense le sexe tout court. On voit toujours deux ensembles parfaitement cohérents dans le domaine de la biologie. Et si, évidemment, écarter la physicalité d'un revers de main et où le corporel est complètement stupide, on peut cependant dire, du point de vue de l'histoire et de l'anthropologie notamment, que les actes qui consistent à réunir des marqueurs physiques ensemble, des chromosomes, des hormones, une anatomie, des gonades, des zones du cerveau, et à les opposer à d'autres ensembles de marqueurs physiques, à considérer qu'il y a à la fois de la cohérence interne à un ensemble de marqueurs et de la cohérence interne à un autre ensemble de marqueurs, et que ces deux ensembles cohérents sont oppositionnels ou complémentaires, peu importe, bah que ces opérations-là sont bien des opérations sociales, comme toutes les formes de catégorisation, comme toutes les formes de tracé de frontières. C'est une lecture et c'est une grammaire. Alors une autre sociologue chère à mon cœur, Colette Guillaumin, en rajoute en expliquant que justement il y a là une idéologie de nature vraiment au sens de la fausse conscience de ce point de vue-là, une façon de voir dans nos classements des objets biologiques comme étant eux-mêmes biologiques et naturels. Et ainsi, à ne pouvoir faire parler la réalité que sous la forme unique de deux sexes naturels et homogènes. Là, on pourrait avoir de la discontinuité. J'ai pas fait mes 25 minutes ? Non, 25. C'est vous qui me l'avez écrit ? Je finis ça. Bon, super. Je remplissais exactement mon contrat. C'est injuste. Je payais pour ça. Et on perd du temps. Bref, ces réflexions et ces théories, elles ont contribué à l'engagement des sciences sociales du genre au cœur des recherches biologiques. Et c'est vrai en particulier sur des thèmes qui sont devenus un peu la coqueluche des études sur le genre, comme, et je n'y reviens pas, l'étude de l'intersexuation ou des intersexes, qui sont précisément une clinique qui pose toutes les questions de la complexité qui existe à découvrir ou prétendre découvrir, plutôt qu'à déterminer et définir un sexe biologique. Presque fini. Un dernier point sur cette étape. Penser presque en fait, la construction sociale de la biologie de cette manière, la construction sociale de la nature ou de notre vision de la nature, ça implique nécessairement, irrémédiablement, de changer la définition du genre. La distinction entre sexe naturel et genre social ne tient plus. Ainsi, quand Delphi écrit « le genre précède le sexe », elle ne propose pas une simple posture ou une proclamation politique où tout serait social, où il n'y a que le social qui nous intéresse, mais c'est au contraire les bases d'une nouvelle définition du genre comme système, comme rapport de pouvoir, comme rapport social au sens des rapports sociaux de sexe. La hiérarchisation précède les catégories hiérarchisées. Le rapport social précède les classes qui en sont issues. Le diviseur précède les parties divisées. Si on comprend sa proposition comme la simple idée que le social, comme un domaine isolé du naturel, produit du naturel, alors on ne comprend plus rien. Ça n'a pas de sens de ce point de vue-là. Je saute parce que j'ai toujours aussi peur qu'avant du président de séance. Bref, il y a un prix à considérer que le genre est un rapport de pouvoir, un système de division. Il faut abandonner, d'une certaine manière, la possibilité de dire les genres. Car si le genre, c'est un rapport social qui produit des catégories de sexe, des valeurs qui sont attribuées à ces catégories de sexe, alors le genre, c'est précisément pas le sexe social. C'est un système qu'on l'appelle patriarcat, rapport de pouvoir, rapports sociaux, peu importe. Le genre produit les sexes qui sont à la fois physiques et sociaux. Ma conclusion. Il me semble... Non, ça c'est une conclusion inutile. Il y a une page seulement, voilà. Le paradoxe avec lequel je commençais. Bon, cette trop longue intervention. C'est que le genre émerge dans l'espace public aujourd'hui avec succès comme une espèce de super catégorie. Et ce qui est intéressant, c'est que le législateur, ben, il est en train de réfléchir à l'introduction du mot et du terme et du concept de genre dans le droit. Comment est-ce qu'il le définit, cette première génération, sans aucun doute, mais notamment à travers des auditions passionnantes qui sont menées en ce moment même au Sénat sur l'identité de genre. Alors là, on tombe dans un paradoxe historique d'importance, c'est dommage de devoir faire ça en une minute. Le législateur veut introduire la notion de genre pour faciliter la modification de la mention de sexe dans l'état civil concernant les personnes transsexuelles et transgenres. C'est une proposition de loi libérale, sans aucun doute, qui dit clairement qu'il ne faut plus exiger des trans qu'ils se soumettent nécessairement, ils peuvent s'ils le souhaitent, à des traitements hormonochirurgicaux lourds et qu'ils peuvent tout simplement choisir. Le genre, c'est redevenu le monde du choix et de la liberté. Et c'est important, cette loi-là. Je pense qu'elle est libérale, je pense qu'elle est intéressante, je pense qu'elle est utile, mais je passe. Le législateur écrit clairement pour ce faire que le sexe de l'état civil, ça c'est génial, doit être le reflet de l'identité de genre. Le sexe doit être le reflet de l'identité de genre. Et il continue pourtant, et ça c'est encore plus passionnant, de définir les personnes trans comme des personnes qui appartiennent à un sexe, donc ça c'est vrai, mais ont le sentiment, c'est moins vrai, c'est social, d'appartenir à un autre. Le genre, c'est un sentiment d'appartenance pour le législateur, un sentiment qui est immédiatement opposable et qui ne peut se comprendre que dans le cadre de cette opposition à ce qui ne relève pas du psychologique, mais bien du dur et du vrai, le sexe auquel on appartient irrémédiablement, sans apostasie possible. C'est quand même paradoxal à cet égard que le genre se soit devenu à la mode, reconnu, mais complètement dévalué, comme si le sentiment de soi, ben, c'était pas vraiment du vrai soi. Les trans appartiennent à un sexe, ça c'est la vérité, parce qu'elle ne peut être que biologique, parce que c'est le sexe, et le sexe c'est biologique. Et puis, ils ont un sentiment subjectif, social, psychologique, c'est un peu de la fausse conscience, mais bon, on est libéraux, donc il faut reconnaître la subjectivité. Donc l'état civil, c'est un artefact qui permet, et le législateur veut qu'on s'entende tous sur cette idée, C'est une fiction de nature pour refléter le genre et la légitimité de ce sentiment de genre de ce point de vue-là. Parce qu'il considère, au fond, qu'on peut changer le sexe, mais parce qu'on ne peut pas changer de sexe, ou pas vraiment. Et ça, historiquement, je pense que c'est une transformation très importante par rapport à d'autres époques. On ne pensait pas le sexe de la même façon et on changeait de sexe selon la façon dont on se comportait. Et il me semble que cette assomption contemporaine du terme de genre ne montre pas du tout qu'on se trouverait dans une espèce de monde post-identitaire de la multiplication des sexes. C'est tout le contraire. Le genre, ici, ça contribue fondamentalement à, selon ma métaphore préférée, durcir le sexe avec ce paradoxe qui est que précisément au moment même où l'on peut juridiquement et médicalement changer de sexe, eh ben on ne peut pas vraiment, dans les conceptions et pour le législateur. Parce que le sexe, c'est biologique, et le genre, c'est social. Donc, en accédant à l'espace public, le genre est devenu complètement déréalisé. C'est une espèce de forme de dévaluation ontologique de précisément ce que ça cherchait à désigner et à défendre, le sexe qu'on pouvait choisir. Je vous remercie. Merci. Vous faites 2 minutes en trop.
Priscille, rapproche-toi du micro. Ah, il est là, il est là. Non,
mais bouge, bouge, je serai plus à l'aise.
J'ai un PowerPoint.
Nous, on s'en fiche.
Oh là là.
Bon, alors, voyez, on a une organisatrice qui me dit soyez très très dur sur les timings. Ils sont 3 dans l'heure.
On a eu un mail, Pierre-Henri, on a eu un mail il y a 2 jours qui nous disait que. Ah, je ne dois pas dire 3 jours.
Donc voilà. Alors donc, puisque c'est 25 minutes, c'est 25 minutes. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on fera la discussion, on verra. Vas-y.
Bon, moi, j'essaye de... Enfin, j'avais un petit peu rallongé, du coup, ma présentation, comme j'avais 25 minutes. Non, je suis bien embêtée. C'est pour ne pas faire un mot, justement. Ah, d'accord. En tout cas, moi, je suis bien contente parce que les précédents orateurs ont bien balisé et introduit les notions dont je vais parler. Donc, je suis contente parce que je passe assez vite, finalement, sur certaines choses. Donc, ça, comme ça a été vu, c'est très bien. Voilà, donc, dans les sociétés... Non, ça ne va pas du tout. Attendez, je ne suis pas du tout sur la bonne diapo, là. Je ne commence pas comme ça. Vous espérez que ça va marcher ? Oui, il y avait le manuel, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ma... Oui. Je ne sais pas pourquoi ça a passé sur la deuxième. Alors voilà, les études de genre. D'ailleurs, tu n'as pas cité le manuel dont tu es l'auteur, qui est un très très bon manuel. Et donc voilà, personne ne semble plus douter dans les sciences sociales que la différenciation, la discrimination systématique des hommes et des femmes et les inégalités qui en résultent sont le fruit évidemment d'un dispositif social qui ne doit rien à la biologie. Et il est, je pense, assez bien compris par beaucoup de gens aujourd'hui que c'est cela que mettent en avant les études sur le genre. Mais si l'on veut véritablement travailler le genre à ses racines, il faut interroger la division homme-femme elle-même, ce que n'ont pas manqué de souligner, comme le disait Alexandre, les épistémologies féministes les plus radicales et les plus percutantes. L'investigation sur le genre, qui mérite pleinement, je pense, d'être appelée anthropologique, doit alors commencer par poser la question de savoir où, c'est-à-dire dans quel topos de la connaissance, cette division en hommes et en femmes trouve le noyau dur de sa légitimation. Il faut donc interroger le type de légitimation que les sociétés donnent à cette division sociale. Voilà, c'est la bonne. Dans les sociétés occidentales, donc la différenciation systématique homme-femme, garçon-fille, au sens social que les gens entendent bien aujourd'hui quand on parle du genre, repose tout entière sur la distinction, donc effectivement, mâle-femelle, ou sur la base équivalente de la distinction homme-femme et dans son sens biologique, on pourrait dire restreint. Alors, repose tout entière sur la distinction mâle-femelle, cela veut dire que cette entreprise, ce dispositif qu'est le genre, se justifie et trouve à se réaliser dans le réel et la matérialité des corps. Et les concepts mâle et femelle, avant même d'être des catégories au sens classique, représentent une nomination qu'il convient justement d'analyser pour être en mesure de la qualifier du tout d'un corps sur la base de formes et de rôles différenciés de certaines parties, organes, etc., de ce même corps. Mâle-femelle serait une classification biologique, entre guillemets, censée être neutre, purement descriptive et donc scientifique, entre guillemets. La question que nous allons aborder dans cet exposé est celle de savoir si cette façon particulière de conceptualiser les corps ne peut pas être analysée comme appartenant, en fin de compte, au dispositif de genre. Et ceci demande ce qu'ont manqué de faire les études du genre jusqu'à présent, de déployer une épistémologie interdisciplinaire pour analyser, avec les théoriciens de la biologie, là où vraiment commence et là où finit la pertinence scientifique des concepts, finalement, on ne peut plus commun, de mâle et de femelle. Alors, outre le concept de sexe lui-même, un tel travail demande de s'intéresser de très près à deux notions importantes qui sont l'objet de débats complexes en philosophie de la biologie, notions qui doivent être mobilisées en parallèle, celle de catégorisation d'une part et celle de fonction d'autre part. Alors moi, je suis aujourd'hui qu'aux prémices de cette recherche, mais les questions clés à poser sont, à mon avis, celles-ci, et leur formulation reste elle-même, bien sûr, à travailler. Qu'est-ce que cette opération conceptuelle et linguistique qui consiste à désigner un corps entier par une fonction biologique, celle de la reproduction? Quel est le domaine de validité de cette attribution fonctionnelle dans les sciences du vivant? Quels outils d'analyse peuvent en rendre compte? Et tant que cette opération définitoire ne sera pas elle-même analysée et nommée, on restera prisonnier de l'épistémée commune qui, renvoyant toujours à cette indécrottable oxymore conceptuel de catégorie donnée d'une certaine façon par la nature, empêche justement cette épistémée commune de rendre compte des catégories comme produits d'une pensée et d'un ordre social donné. L'épistémée, la pensée commune, nous fait envisager les mâles et les femelles comme des réalités, des réalités entre guillemets, qui transcendent le monde vivant. Alors là, vous l'avez bien dit tout à l'heure, hein, les réalités donc qui seraient intemporelles, Thierry surtout l'a dit, et scientifiquement non problématiques. Alors cette représentation ouvre en effet sur des abîmes conceptuels, si l'on prend la peine de les aborder au prisme des théorisations de la biologie, sur le concept actuellement si polysémique, on l'a vu, de sexe. Alors les définitions courantes du mot sexe, pour commencer. Au-delà des multiples acceptions de ce mot dans le dictionnaire, je ne me donne pas pour but de les passer toutes en revue aujourd'hui, je m'occuperai de deux des définitions courantes du sexe au sens dit de la biologie. Selon que la définition s'applique aux humains et aux animaux d'une part et aux plantes d'autre part. Alors, quand il s'agit des humains ou des autres animaux, le mot sexe qualifie l'ensemble des éléments, des caractères physiques qui différencient dans une espèce les individus mâles et femelles, bon, appelés donc hommes et femmes chez l'homme, bouc, chèvre chez la chèvre, etc. Caractères qui permettent, comme l'indique cette définition de dictionnaire, une des grandes formes de la reproduction. Quand il s'agit des plantes, le mot sexe qualifie l'ensemble des caractères qui distinguent les organes ou éléments reproducteurs mâles et femelles. C'est l'exemple, comme dans la phrase, les pins portent les deux sexes sur le même arbre. Alors vous voyez, une définition du sexe, celle des animaux, porte sur la distinction des individus, et la seconde, celle des plantes, sur la distinction d'un ensemble de caractères. La nuance, peut sembler banale et sans conséquence. Mais s'agit-il juste d'une nuance? Ces deux définitions du mot sexe sont-elles commensurables? Est-ce du même ordre de différencier les caractères du sexe ou de différencier les organismes dans leur entier? C'est-à-dire, il s'agit de toutes les manières d'un glissement définitionnel non explicité. Et ce glissement définitionnel recouvre en fait, il n'est donc évidemment pas théorisé, une autre différence importante, celle existant entre deux modalités importantes de la reproduction dite sexuée, l'hermaphrodisme versus le gonochorisme et la thuésie dont Pierre-Henri vous a parlé tout à l'heure. L'hermaphrodisme qualifie donc la présence des deux sexes, mâle et femelle, chez un même individu. Dans l'exemple, la coexistence des deux sexes sur un même sujet se trouve chez les plantes. Donc, ils sont, comme vous l'avez vu, en majorité hermaphrodites, bien que ce soit beaucoup plus compliqué que ça. Et on trouve aussi ce mode de reproduction chez quelques espèces animales comme les escargots. Il ne veut plus avancer. Bon, il va peut-être avancer. Là, c'est pas de ma faute, hein, s'il y a un...
Du coup, ça tient dans les 25 minutes.
Ouais, voilà, du coup, j'ai fini.
On a rattrapé le retard.
Ah, il y a une souris en plus.
Oulala. C'est un PC. Bon, bah, c'est bien, j'ai échappé aux dernières. C'est supprimé. Bah, dis donc.
J'aurais dû utiliser la souris.
Il était bien planté. Bon, il est où ton PowerPoint? C'est celui-là?
Ouais.
Tu as fait des animations sur un Mac, c'est ça?
Hein? Non, pas du tout, j'ai un PC, moi. Si, si, il est en train d'ouvrir, là. Il ouvre là.
Tu vois une barre de...
Non, il n'y a rien. On va recommencer.
Attends, parce qu'il met du temps.
Bah, tout à l'heure, il n'a pas mis de temps du tout. Il l'a ouvert tout de suite. Hein.
Ouais, oui, il est rapide a priori. Donc, si ça ne marche pas, c'est que c'est planté. Je crains qu'il faille redémarrer l'ordinateur parce qu'il doit être saturé.
Il faut le fermer complètement.
Ouais. Hmm? Si ça ne démarre pas, oui. Bon, bah on va faire la pause maintenant, hein, parce qu'on va redémarrer l'ordinateur. Et... Est-ce qu'il y a un mot de passe sur cet ordi?
Non, c'est confirmé directement.
Forcer le redémarrage.
Bien sûr. Ouais.
On avait en une heure trois communications de 25 minutes.
Oui. C'est ça le problème avec les sciences sociales.
Il faut que je commence la mienne avant que vous terminiez la vôtre, comme ça du coup.
Ou si vous commenciez.
En même temps.
Ouais, c'est ça.
Vous avez un PowerPoint, vous?
Non, j'ai rien justement.
Ouais, peut-être que ce serait une bonne idée. On va interrompre la communication de Priscille et on va passer à la communication suivante, comme ça.
Et puis j'essaye de le remettre en vrai.
Je veux bien. Je ne sais pas s'il marche, ce micro, s'il a l'air de marcher. Ça va faire un petit peu des présentations, un peu millefeuille, plusieurs couches. En même temps, nous parlons de la même chose. Alors, non seulement nous parlons de la même chose, mais j'ai l'impression que nous en parlons parfois avec les mêmes mots, en tout cas avec les mêmes problématiques, les mêmes perspectives. Donc, il va y avoir un petit peu de redite par rapport à des communications qui ont eu lieu. Je vais essayer de passer un petit peu rapidement sur ces redites et puis peut-être de passer un petit peu plus de temps sur les points qui me paraissent un petit peu originaux par rapport à ce qui a été dit. Je vais essayer d'être bref, et puis je vais essayer aussi d'essayer de présenter le plus clairement que je le peux en quelques minutes, donc 10 minutes, un quart d'heure, je vais essayer de ne pas déborder sur les 25 minutes, l'apport d'une perspective genre, effectivement, à l'analyse et à la compréhension du fonctionnement du sexe. En un mot, je crois qu'on peut dire que le genre permet aux sciences sociales, pour parler un petit peu généralement, de construire un savoir autonome, ça a été dit déjà, sur les rapports hommes-femmes, effectivement, et sur le rapport du masculin et du féminin. Le genre permet d'interroger la différence des sexes sans la réduire au biologique. C'est ce que je vais essayer de développer. Alors, effectivement, en effet, le genre permet de penser la différenciation et pas seulement la différence. Le processus, la production de la différence et pas seulement le résultat. Le genre permet de penser la binarité, la dichotomie, la construction de la binarité des sexes. Le genre permet de penser l'opposition et pas seulement la complémentarité entre les sexes. Le genre permet de penser la hiérarchie et la domination et surtout les caractéristiques sociales, culturelles, politiques de cette hiérarchie et de cette domination. Le genre permet de penser tout cela au niveau des rapports entre le masculin et le féminin et entre les rapports entre les hommes et les femmes. Le genre qu'on appelait en France pendant un temps, effectivement, ça a été rappelé le sexe social ou les rapports sociaux de sexe, permet d'identifier une place, un territoire non réductible au biologique, à partir desquels il est devenu possible de repenser justement le biologique, le sexe, la différence et la hiérarchie. Alors, c'est ce qu'écrivait Christine Delphi, effectivement, ça a été déjà dit longuement tout à l'heure par Alexandre Jaunet, hein, dans son article « Penser le genre ». Pour essayer de réfuter les thèses censées prouver le fondement biologique de la différence des sexes, et surtout les fondements biologiques de la hiérarchie, il fallait, je la cite, « délimiter et revendiquer un territoire pour le social » lié à l'acception traditionnelle du terme « sexe » pour pouvoir, de cet endroit stratégique, interpeller cette acception traditionnelle. Ce à quoi servira le concept de genre. C'est ce qu'essaie de faire aussi Judith Butler. Je peux en parler un petit peu plus parce qu'elle a été finalement assez peu citée jusqu'à maintenant. Ce qu'essaie de faire Judith Butler, notamment, hein, bien sûr, lorsqu'elle interroge la construction langagière performative du genre et du sexe. Chez Butler, le genre, les normes, les identités sexuelles ne sont pas tellement des interdits posés sur certains comportements, encore moins des significations culturelles qui se grefferaient sur une différence ou un corps antérieur, ça a été dit tout à l'heure, hein. Ce sont surtout des catégories dans et par lesquelles le sujet se produit, le sujet genré, dans et au travers desquelles le sujet se produit et tout à la fois est produit. Le genre constitue un ensemble de normes qui nous assujettissent, c'est dire la contrainte, c'est dire la dimension centrale des normes dans cette dimension du genre. Ce que ces recherches sur le genre analysent, ce n'est pas tant le genre, justement, ça a été dit et redit, niveau culturel qui serait supposé variable par rapport à un sexe supposé invariant, c'est plutôt, justement, un concept qui, dans un second temps en tout cas, permettra de revenir, justement, sur le sexe. C'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention du sexe au genre et retour, l'intérêt de la notion du genre, c'est de pouvoir revenir au sexe, justement. Enfin, l'un des intérêts. Alors, c'est ce genre, finalement, d'analyse que font à leur manière toutes celles et tous ceux pour qui le genre n'est pas seulement une élaboration culturelle, sociale, qui se grefferait sur un sexe prédonné, antérieur, mais, ça a été dit, hein, un rapport social ou une construction discursive, c'est-à-dire un discours pouvoir, en référence souvent à Foucault, un ensemble de normes et de pratiques qui utilisent le sexe comme matrice pour générer de la division et de la hiérarchie. Ainsi, le constat lors de la naissance, lorsqu'il peut être fait, ce n'est pas toujours le cas, c'est un garçon, super, ou alors, ah non, c'est une fille. Ce n'est pas seulement un constat, ce n'est pas tellement un constat même, même s'il est présenté comme tel, c'est aussi la mise en place d'un certain regard, de certaines attentes, de certaines dispositions. C'est inscrire les êtres humains dans une filiation au sens social aussi et leur assigner effectivement hein, tout un ensemble de comportements attendus. Ça a été dit dès ce matin. Il ne s'agit cependant pas, pour la plupart de ces études, peut-être pas toutes, de nier la réalité matérielle du sexe et du corps. C'est l'une des critiques qui a été adressée notamment à Butler, Judith Butler, elle s'en est expliquée dans ses autres ouvrages, après Gender, Trouble dans le genre. Mais il s'agit de soutenir un postulat méthodologique et non métaphysique. Considérer le corps, et donc aussi le sexe, non comme une réalité préalable, mais comme un effet bien réel des régulations sociales et des assignations normatives. C'est étudier non seulement la construction discursive à travers l'analyse du genre, mais la matérialisation du sexe. En quoi le sexe devient finalement un marqueur à partir duquel une organisation sociale s'édifie. Parce que le genre crée de la division et de la hiérarchie, ça a été dit et redit, parce que le genre crée de la division sociale pour fonder la hiérarchie. Et on retrouve centralement, effectivement, Christine Delphi, Colette Guillaumin, Marie-Claude Mathieu, qui ont beaucoup apporté hein, en tant que sociologue, anthropologue et féministe, ce n'est pas contradictoire, sur ces questions. Il y a un retour donc possible à partir du genre sur le sens et la matérialité du sexe. Si le genre n'est pas un ajout par rapport au sexe, si le genre n'est pas réductible au sexe, alors se pose la question de savoir ce qu'est le sexe. Le sexe, qu'il soit considéré comme fonctionnel, anatomique, chromosomique, civil, gonadique et autres, devient finalement, dans ces analyses, un marqueur, une idéologie, une performance, selon les auteurs, qui produisent la division dichotomique et la hiérarchie. Une des questions qui se pose alors est de savoir si l'on souhaite maintenir cette hiérarchie, si elle apparaît incontournable, ou si l'on souhaite la dissoudre. Et alors se pose la question de la différence des sexes. Peut-on garder la différence, la fameuse différence des sexes, sur laquelle beaucoup d'encre, et pas seulement de l'encre, d'ailleurs, coule et a coulé, peut-on garder la différence et abolir la hiérarchie, selon les termes de Françoise Héritier? C'est tout un programme, c'est en tout cas l'abolition du genre que visent les utopies et les stratégies subversives féministes. L'abolition du genre, qui implique pas forcément, selon les auteurs, l'abolition des genres. La dichotomie hiérarchique qui assigne chacun, chacune, à une place, une identité, un destin, qui assigne aussi à chacun de trouver sa chacune et vice-versa. On a reproché au concept de genre son flou et sa plasticité. C'est étonnant que depuis ce matin, on parle beaucoup du flou et de la plasticité du sexe. On a reproché au genre donc son flou et sa plasticité. Or, du point de vue du genre, le sexe n'est pas plus clair, et pas seulement du point de vue du genre, finalement, peut-être, pour les biologistes également. Le sexe n'est pas plus clair. Alors, anatomique, ça a été évoqué, hein, biologique, renvoyant la reproduction sexuée, chromosomique, gonadique, hormonale, pratique, il ne faut pas oublier le sexe en tant que rapport sexuel, institutionnel, qui renvoie à l'état civil, ça a été évoqué aussi dès ce matin. On ne précise pas toujours de quoi l'on parle, tant il semble que chacun sait de quoi on parle lorsqu'on parle du sexe, ou de la fameuse différence des sexes. On a posé que la distinction du sexe était nette, mais celle du genre floue. Or, depuis le genre, notamment, il apparaît que la différence des sexes est plus une invention sociale qu'une création biologique. Depuis le genre, des biologistes, notamment, et ils continuent de le faire, se sont efforcés de questionner l'évidence de l'histoire naturelle du sexe. Alors, comme Anne Fausto-Sterling, Joël Viels, Evelyn Perr et beaucoup d'autres, il n'est pas si assuré que la dichotomie soit toujours bien applicable, en particulier pour les intersexes et l'intersexualité, ça a été suggéré. Cette réalité biologique malgré tout, qui ne trouve pas sa place dans la société, sinon sous le diagnostic d'anomalie. Il y a donc un retour sur l'évidence de la différence des sexes, sur l'idée que les hommes et les femmes auraient avant tout en commun d'être essentiellement différents. Il y a plus encore un retour sur la signification sociale, culturelle, politique de cette prétendue différence essentielle naturelle. Pourquoi cette différence donnerait-elle naissance et légitimité à une organisation sociale fondée, justement en l'occurrence, sur l'hétéronormativité, on n'a pas entendu ce terme encore, ou autrement dit la culture hétérosexuelle, à savoir l'organisation des identités et des rapports sociaux entre deux catégories considérées comme radicalement, essentiellement différentes et appelées à se rencontrer et à former couple reproductif. Surtout, si la différence des sexes était si naturelle, pourquoi faudrait-il autant de garde-fous, légaux, politiques, culturels, etc., pour la maintenir, la protéger, la prouver aussi, hein, l'inflation des recherches pour aller dénicher toujours au plus profond des corps l'origine de la différence des sexes, son fondement, sa légitimité, en fait. Hein. Pourquoi faudrait-il autant de gardes du corps, hein, on pourrait dire, au sens propre, les gardes du corps. Et pourquoi serait-elle si facilement mise en danger, cette différence des sexes, par l'égalité? Il y a eu énormément de discours, justement, hein, pour... je vais avancer. La parité en politique, le PACS, le mariage homosexuel et l'homoparentalité, et d'autres. Ainsi, en résumé, le genre permet à la fois de sortir du sexe biologique et d'y revenir. Le genre permet d'étudier des dimensions non biologiques, des rapports entre les hommes et les femmes, et entre les hommes et entre les femmes. Le genre permet aussi de voir des aspects non biologiques de la fameuse différence des sexes. Le genre permet enfin de voir que le sexe lui-même n'est pas que biologique, mais qu'il est utilisé, instrumentalisé, politisé, en un mot, fabriqué, en vue d'asseoir une certaine organisation sociale. Sortir du sexe et y revenir, c'est pour finir sortir du naturel, de l'inéluctable, de l'indépassable, ça a été bien dit tout à l'heure, c'est ouvrir le champ des possibles à de nouveaux arrangements pas seulement entre les sexes, mais aussi entre les individus, c'est ouvrir la possibilité d'une définition de soi indépendante des assignations de sexe. Pour terminer, je voudrais rappeler la place du genre dans les sciences sociales, ce sur quoi je travaille plus particulièrement depuis un certain nombre d'années maintenant. En particulier, la place des femmes et la place des féministes, ça a été suggéré à plusieurs reprises, dans la construction de ces recherches sur le genre, sur les hommes et sur les femmes. Et aussi la place des femmes et la place des féministes dans ces recherches sur le sexe également. Il est possible d'étudier ainsi le genre des sciences sociales, le genre de la biologie aussi, le genre de la sociologie, je suis sociologue, à l'œuvre dans le fonctionnement même de la pensée du genre et du sexe. On peut noter, c'est le mot de la fin, on peut noter l'ironie des critiques récentes adressées à la soi-disant idéologie des théories du genre, qui ont fait couler beaucoup d'encre parlementaire, qui vont encore le faire, quand celle-ci... les théories du genre, ont critiqué l'idéologie des théories du sexe, des théories sexuelles, des théories qui cherchent à fonder le genre sur la différence biologique des sexes. Voilà, j'ai été court. Merci.
Ah, on essaye. Donc on reprend sur l'exemple des espèces animales qui fonctionnent sur le mode hermaphrodite. Donc vous avez l'exemple, la phrase d'exemple sur les escargots terrestres qui sont hermaphrodites et puis quelques escargots d'eau douce et marine ont des sexes différents et sont donc mâles ou femelles. Et c'était pour vous montrer dans ces deux exemples que dans le mode de reproduction hermaphrodite, quand on parle de sexe, on ne parle pas de l'organisme entier. En revanche, dès lors où un organisme produit soit des spermatozoïdes, soit des ovules, à ce moment-là, ce sont les organismes que l'on se met à définir comme mâles ou femelles. Alors, Alors, gonochorisme est un terme réservé au règne animal et défini par le fait pour un individu de n'avoir qu'un seul sexe, c'est-à-dire de ne produire qu'un seul type de gamètes. Et le terme gonochorisme est un terme peu connu, même des biologistes souvent, pour la raison sans doute que la majorité des animaux, dont les humains, possèdent en fait ce mode de reproduction, on dira. Alors la dioécie, dont Pierre-Henri Gouillon vous a parlé, est un concept qui veut dire finalement la même chose que le gonochorisme, sauf qu'il est employé pour le règne végétal. Donc c'est un phénomène plutôt rare chez les plantes. Il désigne un mode de reproduction où les fleurs mâles sont sur un pied et les fleurs femelles sur un autre. C'est l'exemple, je sais pas, du kiwi, du cannabis et du ginkgo biloba. Et dans la dioécie, les plantes entières, comme chez le ginkgo biloba, sont qualifiées de mâles et de femelles, donc exactement comme les animaux en mode gonochorique. Alors le gonochorisme, qui est le concept auquel nous allons nous intéresser maintenant, est une réalité biologique assez remarquable, et ce pour plusieurs raisons, comme nous allons le voir. Mais la question, c'est: est-ce que le fait de distinguer les individus au lieu des caractères rend compte précisément, scientifiquement, heuristiquement, c'est-à-dire d'une manière scientifiquement opératoire, de la réalité du sexe propre à ce mode de reproduction? Le gonochorisme constitue-t-il, pour les biologistes, une réalité qui justifie de définir les individus comme mâles et femelles, comme des sexes, entre guillemets, sur le modèle du langage courant? Alors, un grand théoricien anglais de la biologie évolutive, dont on a parlé tout à l'heure, Richard Dawkins, dit que mâles et femelles ne sont que des mots. Nous avons simplement accepté, en tant que biologistes, le fait que certains animaux, dit-il, sont appelés mâles et d'autres femelles, sans nous demander ce que ces mots voulaient réellement dire. Et ce ne sont après tout que des mots, il fait remarquer. Et en tant que biologiste, il ajoute, nous avons toute latitude pour les laisser tomber. Alors à quel titre dit-il cela ? Richard Dawkins affirme cette proposition assez remarquable en référence à, je pense, une des conséquences du gonochorisme, justement. Le gonochorisme, qui est dans la définition qu'on vient de voir, défini comme disjonction des sexes dans des individus séparés, entraîne parfois ce que les biologistes appellent un dimorphisme sexuel et des différences qui concernent toutes sortes de caractères, des différences de taille corporelle, de couleur, des différences d'anatomie génitale, etc. Et ces dits dimorphismes peuvent, comme on l'a vu, ne pas exister et ils peuvent aussi être importants. Et le problème d'une définition du sexe centrée sur les individus plutôt que sur les caractères ne permet pas de comprendre pourquoi les caractères sexués sont différents d'une espèce à l'autre. Et en dehors de l'éventail insensé de couleurs et de formes qui varient ou qui ne varient pas en fonction du sexe, si l'on considère simplement l'anatomie génitale, par exemple, la plupart des gens ignorent qu'une variation phénoménale existe dans la forme des appareils génitaux, dans la classe des mammifères, qu'il existe des doubles pénis appelés hémipénis dans l'ordre des squamates, les serpents et les lézards, que la plupart des oiseaux et des batraciens n'ont ni pénis ni vagin, mais des cloaques destinés à s'aboucher, ce qui s'appelle le baiser cloacal. La plupart d'entre nous ignorent aussi qu'il existe des os, dans le pénis et dans les clitoris, appelés baculum et baubellum chez les primates, sauf chez l'homme et les singes à tailles, et dans beaucoup d'autres ordres comme les carnivores, et qu'en général, les espèces qui ont un baculum ont d'ailleurs aussi un os dans les clitoris. Et donc, quand on parle de mâles et de femelles pour se référer aux organismes et aux caractères qu'ils sont censés posséder, on a une image forcément anthropocentrée du phénomène. Les concepts mâles et femelles ne disent rien de la variabilité de ce que peut produire le mode de reproduction gonochorique. Les concepts de mâles et femelles appliqués aux individus sont en fait une manière de ne rien dire sur le sexe et sur les caractères du sexe, parce que les caractères du sexe en mode gonochorique sont un phénomène qui se reconfigure en permanence au cours de l'évolution. Et c'est dans ce sens, je pense, qu'il faut reprendre la remarque de Richard Dawkins quand il dit que les concepts mâles et femelles sont des concepts classificatoires problématiques. Et les concepts de mâles et femelles appliqués aux individus échouent dans leur mission donc à expliquer justement le phénomène du conochorisme. Si définir les individus comme des sexes, comme le fait le langage courant, n'est pas une définition opératoire pour la compréhension de ce que c'est que le sexe en mode conochorique, ce mode définitoire relève donc d'un choix épistémique d'un autre ordre, c'est-à-dire qui sert autre chose que la connaissance du sexe lui-même. Et question, cette définition sert-elle juste à voir les êtres sous un seul prisme, celui de la procréation? Pour Richard Dawkins, parler de mâle et de femelle pour désigner les individus ne permet de rendre compte d'aucune réalité biologique au-delà de la définition, c'est ce que disait Pierre-Henri tout à l'heure, de qui produit quel gamète. La seule définition scientifiquement robuste en biologie, c'est la définition gamétique du sexe, dit Dawkins. Les mâles sont les individus qui produisent les spermatozoïdes, les femelles les ovules. Mais le fait que les individus humains et non humains continuent d'être distingués sur la base des gamètes qu'ils produisent, est-il scientifiquement plus fondé? Et comme on va le voir, ce mode définitoire a plongé les sciences du vivant dans un paradigme qui conduit à mésinterpréter assez gravement la spécificité même du gonochorisme. Parce que le gonochorisme est également une réalité biologique remarquable en ce qu'il entraîne les organismes à se mettre en contact pour permettre la reproduction, comme on l'a vu dans la définition ordinaire de tout à l'heure. Le sexe en mode gonochorique est inséparable d'un autre concept, celui de sexualité. Le gonochorisme entraîne la sexualité. Les gamètes en eux-mêmes ne font rien, mais ces gamètes ne réalisent pas leur fonction tout seul, comme le cœur ou l'estomac peuvent le faire. Il faut une action engagée par les organismes pour que la fonction de procréation s'accomplisse. Et c'est là que les choses commencent sacrément à se compliquer. Quand on veut définir le sexe en mode gonochorique, on doit d'abord définir la sexualité et les comportements qui motivent deux individus porteurs de ces gamètes différenciés à s'accoupler, ou du moins à se rapprocher pour que la rencontre des gamètes ait lieu. La sexualité est classiquement décrite en biologie comme comportement de reproduction. La sexualité décrit l'ensemble des mécanismes et des comportements qui permettent l'échange d'une partie de son patrimoine génétique, autrement dit la rencontre de gamètes d'individus différents. Une définition assez récente. Alors, je pense qu'il n'est sans doute pas pertinent de remettre en question l'idée que les testicules, les ovaires, l'utérus, ça sont des organes et ayant pour fonction, entre guillemets, la procréation. Mais les organes génitaux externes, eux aussi définis comme faisant partie de l'appareil reproducteur. Et le concept ordinaire de sexe marque d'ailleurs bien cette ambiguïté, cette ambiguïté de sens, puisqu'il ratifie que le sexe, c'est aussi la sexualité entendue sous l'angle du plaisir. Limité aux humains, il va sans dire, et cette conception anthropocentrée devient, comme on va le voir, problématique pour certains théoriciens des sciences de la vie actuelle. En effet, quelle est la signification primordiale de la sexualité pour les individus non humains? Est-ce la procréation ou bien les sensations données par les organes génitaux? On affirme, donc, comme vous l'avez vu, que la sexualité est un comportement de procréation. Mais les individus dans le monde vivant s'accouplent-ils dans le but de procréer? Et un corpus critique dans les sciences de la vie qui annonce... Thierry vous a donné aussi certains exemples. Donc ce corpus qui annonce l'émergence d'un nouveau paradigme sur la façon de conceptualiser la sexualité propose que la procréation doit être considérée comme un effet de la sexualité et non sa fonction. Pour Anders Hogmo, un théoricien norvégien qui travaille sur le comportement sexuel des rats, le comportement sexuel est effectivement, je traduis, fréquemment considéré comme faisant partie de types de comportements qui ont pour but ou fonction la perpétuation de l'espèce. Bon, entre parenthèses, mais ça, Pierre-Henri Gouillon vous l'a rappelé aussi, je vous rappelle que les biologistes de l'évolution ont totalement éradiqué la notion commune de perpétuation de l'espèce depuis 40 ans. Je continue la traduction. Le fait de classer les comportements selon leur but ou leur fonction peut être donc pratique apparemment, dit Hogmo, mais il a comme conséquence implicite d'imposer le finalisme comme explication causale. Et la téléologie, dit-il, est devenue inacceptable en science. Et il pourrait être utile, poursuit-il, de se poser la question si la classification des phénomènes comportementaux en termes de but est appropriée ou non. Et il précise, les comportements ne peuvent pas avoir de but ou de fonction dans un sens biologique. Il est impossible de se servir de la fonction biologique comme ce qui pousse l'individu à réaliser des actes sexuels. Toujours Ogmo, qui conclut, quand un animal s'engage dans une activité sexuelle, ce n'est pas dans l'intérêt ou dans le but de reproduction, en tout cas en ce qui concerne l'individu. Pour Ogmo, et cette formule est vraiment puissante, c'est-à-dire qu'on visualise là le changement de paradigme, pour l'individu, le comportement sexuel est un phénomène qui n'a pas de lien à la reproduction. Et selon cette analyse, dit-il encore, le comportement sexuel peut être le mieux analysé et compris comme faisant partie des comportements qui sont exécutés parce qu'ils sont gratifiants, indépendamment de toutes les autres conséquences qu'ils peuvent avoir. Si donc c'est une erreur de conceptualiser les activités sexuelles des animaux à partir de la procréation, même et surtout d'ailleurs celles qui sont conceptives, c'est-à-dire celles qui ont pour conséquence la conception, les définitions du sexe qui distinguent les individus en mâles et femelles et en hommes et en femmes sur cette base sont finalement une conceptualisation très inexacte pour rendre compte de ce que c'est que le sexe en mode gonochorique. La représentation commune des mâles et des femelles comme une réalité biologique ou comme capable de rendre compte au plus près d'une réalité biologique est, on peut l'affirmer, peu en prise avec le réel décor tel que l'envisagent les biologistes qui travaillent sur le sexe. Ces fausses réalités ne peuvent donc prétendre fonder la division de la société en hommes et en femmes, c'est-à-dire d'un point de vue entre guillemets scientifique de biologie. C'est-à-dire les mâles et les femelles sont des concepts d'une certaine manière en trompe-l'œil, créés par un ordre social qui, lui, pour le coup, donne pour finalité aux hommes et aux femmes de procréer et a besoin de ces concepts pour faire croire que procréer relèverait d'une sorte d'impératif qui serait inscrit dans les corps. Alors cet ordre social que nous nommons aujourd'hui le genre en sciences sociales donne au corps, et surtout donc au corps dit féminin, le sens unique de corps reproducteur ou de matrice ambulante, comme l'ont très bien montré de leur côté les épistémologies féministes. Et on en a une preuve flagrante en ce que cet ordre social, comme on le voit actuellement, décourage, tabouise et sont dans certains cas condamne et empêche en tout cas de penser comme légitime toutes les formes de sexualité non potentiellement conceptives, comme le montrent d'un autre côté les études sur la sexualité et les études dites queer. Si la fonction du plaisir était celle qui prévalait dans les définitions communes du sexe, les concepts mâle et femelle n'auraient simplement pas été forgés. Une définition des parties génitales et de la sexualité qui prendrait pour définition première la gratification que la stimulation des organes sexuels procure n'aurait pas besoin de distinguer les mâles des femelles. Car le plaisir est justement ce qui demeure partagé par les corps dans le mode de reproduction gonochorique. Cela paraît évident pour les humains, mais, et ceci va être ma conclusion, loin d'une définition anthropo- et génitocentrée du plaisir, qui connaît, et ça c'est là un clin d'œil face à l'étendue de notre ignorance, qui connaît la chimie orgastique des papillons, qui connaît ce qui se passe dans ce qu'on appelle si joliment le cœur copulatoire des libellules. Voilà, j'ai fini, merci.
On a un quart d'heure pour discuter, c'est bon ? Allons-y. Thierry.
J'arrive, si je peux passer. Oui, je voulais poser une question un peu directe, mais pour avoir la réaction des intervenants. En particulier autour des titres, des présentations des deux garçons. Je ne peux pas dire la première et la troisième, puisqu'il y a eu un... Mais retour du genre vers le sexe, précédence du genre sur le sexe, que vous inspirent toutes les images de sexe chez les animaux qu'on a vues dans la présentation de Priscille, qu'on a vues ce matin, etc. C'est-à-dire que donnent les réflexions sur le genre comme système de pouvoir entre les sexes quand elles rencontrent le monde animal. C'est-à-dire est-ce que la théorie du genre elle a un usage restreint aux sciences humaines, ou est-ce qu'elle a un... C'est-à-dire,
Voilà. Ou est-ce qu'elle a une application plus large? Autrement dit, la théorie du genre, elle a été présentée en particulier dans la présentation de Ludovic Gosso comme une bouffée d'oxygène, quelque chose d'enthousiasmant, mais qu'est-ce qui se passe quand ça rencontre la biologie?
Mais je n'ai rien à dire. Non, non, j'ai pas grand-chose à dire. Juste ceci, que effectivement, comme on a tardé à prendre en compte l'aspect social de certains comportements des autres animaux que les humains, bien sûr, la théorie du genre est appelée et rencontre certains travaux, effectivement, de la biologie. Je ne suis pas du tout, par contre, habilité à entrer sur cette question. Je me suis vraiment centré sur la place du genre, pour ce qui me concerne, moi, dans les sciences sociales et en quoi, effectivement, les rapports sociaux de sexe, le genre, finalement, permettait de comprendre, y compris l'évolution de certaines recherches, alors notamment sur le genre, au sein des sciences sociales. Et je ne me suis pas du tout coltiné aux autres espèces animales. Voilà.
Non, mais donc la promesse du retour du genre sur le sexe, c'est retour du genre sur le sexe humain.
Alors, pour ce qui me concernait, oui, mais sans du tout fermer la porte au retour sur, bien sûr, au contraire, le sexe des non-humains, puisqu'effectivement, la biologie suggère que les théories du genre ont beaucoup à en apprendre et à en retirer pour mieux comprendre la dimension sociale du sexe chez les humains.
Chez les animaux.
Non, chez les humains.
C'est une question difficile pour moi, à ceci près que c'est bon, l'intérêt, il existe forcément, même s'il y a un domaine... Il y a un domaine de connaissance qui semble séparé quand il s'applique aux humains et quand le genre s'intéresse à la construction de notre regard du biologique. Donc ça porte sur les usages de cette nature, les usages de ce travail sur le sexe, la façon dont on le visualise, et toujours cette espèce de rhétorique de l'authenticité selon laquelle ça c'est encore plus vrai parce que c'est pas humain et c'est pas contaminé par des processus sociaux, et que donc on a un apprentissage spécifique à en faire. Je suis toujours étonné qu'il y ait une conception un petit peu pré-durkheimienne du social dans la façon dont on critique un certain nombre de théories, notamment, juste, je déborde un peu, mais ça a un rapport, ces fameuses théories du genre, elles n'ont jamais dit, par exemple, qu'il n'y avait pas des comportements sexués, qu'il n'y avait pas des rôles différents, qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes. Le fait de dire, par exemple, qu'il y a un travail de construction de ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, et ne veut pas dire que ça n'existe pas. Une maison, c'est construit, et c'est dur, et c'est solide. C'est cette idée qu'il existe un monde naturel qui échapperait à notre regard et qui soit riche de vérités antécédentes dont on devrait se nourrir. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui m'intéresse prioritairement dans ce que j'apprends avec cerveau étriqué du sociologue des sciences dites de la nature, c'est comment elle conceptualise le sexe chez les humains, la reproduction chez les humains, le sens que ça leur donne en général, et l'idée que c'est intéressant de voir qu'à partir du moment où on définit la biologie, où on a défini, j'imagine que plein de gens ne seraient pas d'accord, la biologie comme des sciences de la nature, les objets que la biologie saisit sont nécessairement des objets naturels. C'est-à-dire que la contrainte épistémologique, elle est dans un claquement de doigts. Puisque c'est les sciences de la nature, ce qui saisissent, c'est naturel. Donc toute la part de comment ça travaille et ce que ça nous apprend est occultée. Si j'ai répondu.
Et si, tu voulais répondre aussi ou... Non, si.
Non, parce que j'avais envie de dire, mais ce n'est pas vraiment une réponse à ta question, mais c'est qu'en tant que sciences sociales, on doit, étant donné que la catégorisation homme-femme est une catégorisation biosociale, c'est-à-dire d'abord une catégorie, enfin, la légitimation de cette catégorisation sociale, c'est le biologique, on doit s'intéresser, nous, en tant qu'anthropologues, sociologues, historiens, aux conceptions du biologique, que ce soit des conceptions ordinaires ou que ce soit les conceptions des sciences biologiques. Je pense que c'est très très important. On ne peut pas rester, si on travaille sur cet objet, on ne peut pas rester cantonné au social. Enfin, c'est le reproche que je fais aussi à ma communauté. Voilà.
Ouais, je pourrais ajouter un petit mot. Je voudrais dire qu'effectivement, je trouve que sur ces questions, nous, biologistes, on est interrogés en permanence par les sciences humaines et par l'histoire. Au fond, tout ça rejoint les vieux problèmes de la génétique, parce qu'au fond, on est en train de parler de la détermination génétique du sexe, mais on a, la génétique a déjà servi à soutenir le eugénisme, le nazisme, etc. Et voilà, moi, je voudrais juste dire qu'en tant que biologiste, évidemment, je m'oppose à l'eugénisme, je m'oppose évidemment à des applications de type nazi, je m'oppose au fait que la base biologique des différences entre les sexes puisse servir à discriminer les sexes dans nos sociétés. Pour moi, c'est une mauvaise réponse que de dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les sexes, si vous voulez. Hein. Je pense que là, j'espère qu'on peut être d'accord là-dessus. Et effectivement, je trouve que de ce point de vue-là, le concept de genre est remarquable parce qu'il permet, pour nous généticiens, on sait très bien, et ça je voudrais vous le dire très clairement, qu'en général, sur tous les caractères complexes, en tout cas, les gènes ne déterminent jamais rien hors d'un environnement, qu'on n'a jamais vu un gène faire quelque chose sans être dans un environnement, et que donc tout effet d'un gène ne peut être vu que dans des environnements donnés, choisis, et que donc évidemment, du coup, ce qu'on voit, ce qu'on appelle nous le phénotype, que vous pourrez appeler le genre pour le cas particulier dont on parle, eh bien, il est dépendant de variations génétiques et de variations environnementales. Je voulais juste poser une question à Priscille, parce qu'elle a attaqué la téléologie avec ce argon, là, je ne sais plus comment j'arrive plus à trouver son nom. Comment il s'appelle ?
Ogmo.
C'est un vieux débat, on retrouverait quasiment exactement ce qu'il écrit sous la plume de Lucrèce, qui dit que la langue n'a pas été faite pour parler, etc. Pour moi, ce problème a été réglé avec Darwin, par le fait que les causes proximales des événements sont aléatoires, c'est les variations, les mutations, etc. Enfin, maintenant, on appelle ça des mutations. Et que la sélection naturelle, en revanche, elle, impose une contrainte directionnelle dans le système qui fait que, tout compte fait, il y a une sorte de finalité de fait, ce que certains ont appelé la téléonomie, par opposition à la téléologie. Donc, je trouve que ressortir ces arguments-là, aussi simplement que ça sent... Moi, je veux bien qu'on critique la téléonomie et l'approche par téléonomie, mais à mon avis, on ne peut pas rejeter toute idée et dire que c'est le plaisir qui anime les individus. Si je vous dis, quand vous saisissez un verre d'eau, que la seule raison pour laquelle vous avez pris, c'est qu'il y a eu un influx nerveux qui est passé dans vos nerfs et qui a contracté les muscles et que du coup vous avez bu le verre d'eau, c'est vrai. Sauf qu'évidemment, il y a une cause derrière, c'est que vous avez voulu boire. Et bien sûr, vous avez voulu boire parce que ça vous fait plaisir de boire. Mais je pense que le fait que ça vous fait plaisir de boire, ça a quelque chose à voir avec le fait que physiologiquement, vous avez besoin de boire. Et le fait que... Voilà, d'accord ? Donc, que dit du plaisir à avoir des rapports sexuels dans certaines espèces, alors, et pas dans d'autres d'ailleurs, je veux bien, mais que ce plaisir soit le résultat de la sélection naturelle, parce que ce plaisir induisait les individus à faire ce qui permet la reproduction, ben ça me semble, moi, évolutionniste, la seule explication qu'on ait à l'existence même du plaisir en question. Voilà.
Alors, en fait, j'ai une question, mais qui est beaucoup plus large et qui résulte pratiquement de ce débat. En préparant la journée, je me suis aperçu que finalement, il y avait peu de dialogue en France entre disciplines. Alors, j'ai vraiment une question simple. Y a-t-il une équipe ou plusieurs équipes pluridisciplinaires en France ? Et quels sont les axes que vous privilégiez à l'heure actuelle ? Que cette équipe privilégie ?
Bah, y a au moins l'équipe de Priscille. Vas-y, parle-en un petit peu.
Ouais. Oui, mais malheureusement, c'est assez pessimiste que je vais dire, parce que on est une grosse équipe avec des gens qui viennent de champs disciplinaires très différents, mais finalement, tout le monde reste assez... Les sciences sociales, en tout cas, restent assez dans leur sphère d'études, et les généticiens les généticiens ont plus besoin des sciences sociales que les sciences sociales n'ont besoin des biologistes, ce qui est un peu dommage dans cette équipe-là. Mais je veux pas... je veux dire, c'est un débat qui sera sur Internet, donc je n'ai pas envie non plus de créer une polémique. Mais disons, il y a une volonté, oui, de faire quelque chose ensemble, même si on n'y arrive pas toujours.
Par rapport à d'autres pays, sommes-nous très... décalé.
Ça sent par rapport au monde anglo-saxon, ce qu'on peut dire, c'est que en France, on a eu une très forte résistance à la vision tout biologique de l'humain, ce qui nous a évité des horreurs comme l'eugénisme, tout en nous évitant même de comprendre Darwin et de comprendre la génétique pendant longtemps. Donc ça a eu des côtés positifs et des côtés négatifs. Il ne faut pas oublier que cette histoire de dire les gènes, ce n'est pas bien parce que ça, etc., c'est quand même ce qui a fait que les soviétiques ont zigouillé tous leurs généticiens et que l'agriculture soviétique s'est cassée la figure en se basant sur des bases fausses sur le plan de l'hérédité. Donc, c'est vraiment un problème très compliqué. C'est à la fois politique, mais concret aussi. Donc, les anglo-saxons sont vachement plus que nous prêts à accepter les aspects très biologiques chez les humains. Et du coup, ça promeut peut-être plus facilement des débats forts, mais avec des sciences humaines beaucoup plus faibles, en quelque sorte, je dirais, vis-à-vis de ces questions-là, ou plus éloignées par rapport aux biologistes. Vous n'aurez pas beaucoup de généticiens français qui vont vous dire que les gènes déterminent complètement ce que fabriquera l'individu, alors que dans le milieu anglo-saxon, vous aurez pas mal à en trouver, et même de très grands noms, hein, comme Jim Watson, qui ont dit des choses tellement graves qu'il a fini par se faire virer de son laboratoire. Virer un prix Nobel comme Jim Watson, ça montre à quel point il y a des problèmes graves dans la façon dont les biologistes se comportent vis-à-vis de ces questions.
Merci. Moi, je voudrais apporter une petite touche en tant que personne transgenre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la génétique et par rapport à l'aspect social, et peu en fait par rapport à l'influence qui peut exister entre les deux, puisque le rapport se fait de vouloir, par exemple, de vouloir changer de genre, à vouloir incorporer un côté physiologique de la chose. C'est-à-dire qu'il y a la vision de la société, il y a le ressenti de la personne qui est le ressenti intérieur et qui joue en fait sur le côté physiologique. Donc ça a une influence aussi sur le corps. Donc je ne sais pas quel est l'éclairage éventuel qui peut être apporté par rapport à ça, parce que c'est en dehors en fait de toute contrainte sociologique. Puisque les personnes qui sont atteintes en général de ça savent très bien qu'elles ne sont pas dans une norme, on va dire, sociale. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur et qui pourrait, alors peut-être pas génétique, mais enfin une empreinte psychologique interne qui, elle, influe énormément sur le côté physique des choses, quoi.
Bon. Okay, plus là.
Qui répond ?
Ça peut être que un point de vue. Je réagis à quand vous dites des personnes atteintes comme ça. Je sais pas parce que c'est vrai que dans mes propres travaux, et ça va, ça tient au fait que je travaille sur, en gros, je m'intéresse à la question du genre à travers aussi les questions de transsexualité et de transgenrisme, mais pas à la question de l'identité, n'étant pas moi-même transgenre, étant cisgenre comme on dit. Tout à fait. Et surtout, dans ce vocabulaire, on refuse par exemple le terme de transsexualisme, parce que ça, disons que c'est une invention qui est indissociable effectivement d'un régime historique médical et d'un régime de pathologisation où on soignait un syndrome et pas des gens notamment. Ce qui fait que répondre à la question de « est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de l'intérieur ?», c'est une question à laquelle je suis complètement incapable de répondre, si ce n'est par la réfutation éventuelle de la façon par laquelle cette question a été travaillée par la médecine, c'est-à-dire en appliquant un syndrome. En appliquant un syndrome et en disant « ben voilà, il y a un syndrome de transsexualisme pour dire, pour rentrer dans ce régime d'authenticité du vrai homme et de la vraie femme, qui est guéri à la suite d'une transition et qui n'est plus transsexuel. Disons que j'ai un appareil critique scientifique et politique là-dessus. Ça m'interdit d'aller travailler, c'est vrai, ou je ne les connaîtrais mal, sur des travaux qui remonteraient à la source de ça. Ça me paraît une démarche assez étrange.
Thierry, ok.
Voilà.
Oui, je m'excuse, j'ai pas entendu la question, mais j'ai eu un résumé par Pierre-Henri, donc je vais intervenir. Mais il me semble qu'effectivement, la question de la transsexualité, c'était une question médicale qui concevait
un peu une sorte d'itinéraire d'un sexe à l'autre, enfin, qui était vraiment bipolaire, alors qu'aujourd'hui, les transidentités, elles sont pensées sur quelque chose de beaucoup plus émancipé, pluriel, par rapport au schéma binaire homme-femme, c'est-à-dire elles sont émancipées par rapport à la question des hommes et des femmes. On peut être trans avec tout un tas de conformations identitaires, organiques, anatomiques, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça a été. Et puis ensuite, ce qui me frappe le plus, en fait, c'est le côté, ce qu'on appelle la piraterie du genre, c'est-à-dire la manière dont les connaissances de la biologie, finalement, sont détournées pour produire des identités, justement, plurielles, multiples, incongrues, surprenantes, uniques, enfin, voilà. Et ce que j'entends là-dedans, c'est que, bon, il y a des usages de la biologie, mais surtout, il y a une instrumentation de la biologie, c'est-à-dire les contenus de la biologie ne sont pas niés. On accepte que la biologie, elle a découvert des trucs et que ces trucs, ils marchent. Alors, tout à l'heure, il y avait la question, quand est-ce qu'on a compris que les mâles et les femelles contribuaient, de quelle façon, etc. Ben, d'une certaine manière, les transidentités aujourd'hui, elles jouent avec les résultats de la science hormonale, mais elles en jouent dans un sens non normatif, elles en jouent dans un sens créatif. Voilà.
Je crois qu'on a bon, il y a une dernière question.
Une dernière, oui, parce que.
On va être obligé de s'arrêter, hein, désolé. Et je te laisse la place.
Oui, une question sur les usages sociaux, je pense en particulier au terme d'adresse. En France, il n'y a pas seulement la question des genres. Pour monsieur, c'est clair. Pour les femmes, ça l'est moins, puisqu'on dit, on hésite entre madame et mademoiselle. On a vu dans les années 90, en Angleterre, un nouveau terme apparaître, Miss, qui n'est ni Miss, qui n'est pas non plus Mrs., qui est le terme neutre, l'équivalent de Mister, en fait. Et on n'a pas ça en France. Voilà, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Je pense qu'il faut qu'on ait ça en France très rapidement.
Merci.
Peut-être qu'il faudrait aussi se poser la question pourquoi avoir des termes d'adresse différenciés pour les hommes et les femmes.
D'accord. Et puis moi, comme pratique quasi sportive avec mes étudiants, quand je leur demande, quand je leur dis oui madame, quand elles prennent la parole et qu'elles me disent non mademoiselle, c'est toujours la même chose. Je veux dire, c'est l'état civil divise la classe des femmes et symétrique quand elles passent du père au mari. Alors que la classe des hommes n'est pas divisée. Lorsqu'on divise une classe par rapport à l'autre sur exactement le même processus, c'est un double standard et il est sexiste. Inch'Allah.
Mais c'est terminé, ça. C'est terminé, normalement.
Oui, mais... Oui, oui. Mais comme d'habitude, c'est aussi une question des logiques de la reproduction, de la domination, parce que après cette explication, il y a des jeunes filles qui me disent « Oui, mais moi, je préfère. » Je leur dis, mais moi je refuse. Et c'est compliqué. Oui, mais il y a mon choix aussi.
Alors il me reste à vous remercier.
Merci.
Et à demander à madame Françoise Barré du CRO de bien vouloir venir. Je la remercie d'avoir accepté de donner. Ce qui sera la conférence de clôture de la journée. Donc quelques mots pour vous présenter. Donc Françoise Barré du CRO est agrégée d'anglais, donc c'est une angliciste, docteur d'État, professeur émérite d'histoire comparée des civilisations à l'université Paris Diderot. Et il y a quelques années, elle a présidé à la fondation de l'Institut Émile du Châtelet pour la diffusion et la valorisation des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Ça, c'était en 2006, donc vous avez pris la présidence. Je voudrais juste citer un certain nombre d'ouvrages. J'ai cru comprendre que vous étiez spécialiste de l'époque victorienne.
Oui. Donc, la sexualité.
Donc vous avez écrit Love in the Time of Victoria, oui. Entre autres. D'autres titres, Pauvreté, Charité et Morale au XIXe siècle, Femmes en tête, Femmes de savoir à la fin du XXe siècle, en collaboration avec Evelyne Pizier, et Le mouvement féministe anglais d'hier à aujourd'hui, entre autres. Plus de nombreuses directions d'ouvrages. Donc vous avez environ 30 minutes pour clôturer cette journée.
Bien, je vous remercie de m'avoir accueilli ici. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui, donc je vais faire mon miel aujourd'hui. Faire mon miel parce que il faut bien dire que je suis pas très très forte en biologie et donc je vous remercie beaucoup. Alors à ce stade de la discussion, je vous propose de nous poser une question politique. Que faire de la différence des sexes? C'est, disons-le d'emblée, une question trop générale dans la forme et pratiquement insoluble au fond. Je vais tout de même m'atteler à cette tâche. Cette interrogation couvre un champ universel. Elle touche les structures de parenté, les rapports sociaux, les constructions religieuses, les représentations artistiques, la science, comme on l'a vu aujourd'hui. À l'époque moderne, la réflexion s'est plus particulièrement orientée vers l'aveuglante hiérarchisation qui s'est instaurée entre les femmes et les hommes. Citons notamment, parmi les tout premiers au XVIIe siècle, Poulain de la Barre, François Poulain de la Barre, auquel il convient d'ajouter une litanie de théoriciens et de théoriciennes qui, dans leurs écrits et leurs actes, débattent de l'inégalité structurelle des rapports sociaux de sexe. Mon projet est de reprendre ici avec vous certaines des méthodes élaborées pour combattre les effets sociaux de la hiérarchisation de sexe. J'ai voulu suivre en particulier la pensée de deux grandes théoriciennes qui, à mon sens, proposent les repères essentiels. Je commencerai par aller du contemporain au moins connu et je voudrais revenir sur les conclusions de l'éminente anthropologue Françoise Héritier, qui nous fournit avec les moyens d'analyse de la science moderne un puissant levier permettant d'ébranler le bloc compact de la différence des sexes. En 1997, Françoise Héritier publiait « Masculin-féminin, la pensée de la différence », suivi en 2002 d'un second volume sous-titré « Dissoudre la hiérarchie ». Elle fondait sa démonstration sur les travaux existants en anthropologie pour constituer un socle intellectuel qui réfutait clairement la thèse de nombreux penseurs, tels Friedrich Engels, qui avait posé l'existence d'un pouvoir matriarcat confisqué par les hommes à leur profit au moment de l'accroissement des richesses, une défaite originelle des femmes de la préhistoire qui demandait réparation. Or, selon les données que Françoise Héritier a collectées, soit lors de ses propres recherches sur le terrain au Burkina Faso notamment, soit auprès d'anthropologues du monde entier, les femmes, en tant que groupe, n'ont jamais exercé dans aucune société le pouvoir économique et politique. Au cœur de sa démonstration, l'idée que c'est l'observation de la différence des sexes qui est au fondement de toute pensée est une idée est tout à fait importante. La réflexion des hommes, dit-elle, dès l'émergence de la pensée, n'a pu porter que ce qui leur était donné à observer de plus proche, le corps et le milieu dans lequel il est plongé. Ces observations leur ont été données par les sens. Le corps humain, lieu d'observation de constante, place des organes, fonctions élémentaires, humeur, présente un trait remarquable et certainement scandaleux, qui est la différence sexuée et le rôle différent des sexes dans la reproduction. C'est là, conclut-elle, le butoir ultime de la pensée, sur lequel est fondée une opposition conceptuelle essentielle, celle qui oppose l'identique au différent, un de ces thémata, dit-elle, un thémata archaïque que l'on retrouve dans toute pensée scientifique, ancienne comme moderne, et dans tous les systèmes de représentation. On peut en effet imaginer que lorsqu'on vit dans un groupe réduit d'individus, comme ce fut le cas pour l'Homo sapiens, dans une grande proximité corporelle, il apparaît certainement qu'il existe, par exemple, chez les femmes, des poitrines plus fortes que d'autres, et chez les hommes, des membres sexuels plus ou moins visibles. Mais une chose n'arrivera jamais, c'est que du ventre de ceux qui ont un pénis et un scrotum sortent du sang et des nouveau-nés de l'un et l'autre sexe. Si les femmes, écrit Françoise Héritier, n'avaient pas eu ce pouvoir exorbitant de produire les deux sexes et surtout de produire les fils à l'image des hommes, le monde fonctionnerait de façon très différente, ainsi que notre système de pensée. Ce qui l'amène à formuler ce postulat, la différence biologique a suffi et suffit encore pour fonder la domination masculine. À la manifestation soutenant le projet de loi sur le mariage pour tous, les slogans et la présence de nombreuses poussettes soulignaient assez clairement que par ce biais était posé le droit à enfanter, quel que soit le sexe, les capacités procréatives et les orientations sexuelles. On entendait le slogan « Un enfant si je veux ». Pardon, au slogan « Un enfant si je veux »,« Un enfant quand je veux », scandé par les femmes pendant la manifestation de 1971 pour obtenir le droit à l'avortement, on entendait ce dimanche 2013, sous les pavés la crèche, où Jésus avait deux pères, et une mère porteuse. Excusez-moi, je suis fatiguée parce que j'ai attendu toute la journée et voilà. Alors, je manque tous mes efforts en ce moment. Je vais essayer de me concentrer davantage. Donc, derrière le mariage, se profilait ouvertement l'assistance médicale à la procréation et la gestation pour autrui, dont la cause a été soutenue dans la presse, notamment par un obstétricien comme le professeur François Oliven, qui considère, je cite, « les couples homosexuels, hommes et femmes, que les couples homosexuels, hommes et femmes, ont tous une part égale à la gestation pour autrui », ou par la psychiatre et psychanalyste Sylvie Faure-Pragier, pour qui la psychanalyste n'a pas à s'opposer à la volonté de donner aux enfants des homosexuels la reconnaissance de leur filiation, même si celle-ci est contradictoire avec la biologie. Enfin, Françoise Héritier affirme que le seul fait qui mérite d'être retenu, c'est qu'il y a eu une seule traduction de la capacité des femmes à produire du vivant. C'est ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes. Il ne s'agit pas là, dit-elle, d'un fait de nature, mais d'un rapport conceptuel orienté, sinon toujours hiérarchique, entre le masculin et le féminin. La valence différentielle des sexes, ce pilier de l'ordre social, elle l'a ajouté aux trois piliers théorisés par Claude Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste, la répartition sexuelle des tâches et une forme reconnue d'union sexuelle. La valence différentielle des sexes était si évidente, commente-t-elle, qu'elle ne se voyait pas, mais c'est elle qui explique le fonctionnement des trois autres. Aussi ajoute-t-elle avec humour, ce pourrait être désespérant, mais ça ne l'est pas vraiment. Il faudra simplement beaucoup de temps, elle parle de siècles, ça c'est pas énorme, et peut-être de millénaires, pour que nos systèmes de représentation changent radicalement au sein de chaque individu, de chaque institution, dans toutes les cultures. En effet, les évolutions législatives ainsi que l'évolution de la recherche scientifique laissent espérer que dans les pays démocratiques, les jeunes filles et les femmes seront en situation un jour de contrôler absolument leur fécondité et leur grossesse, et qu'ailleurs dans le monde, les femmes finiront elles aussi par obtenir le contrôle du lieu même où elles sont dominées, la procréation. Cette activité qui est au fondement de la vie humaine, dont elles sont sans doute pour très longtemps les principales actrices, ne les empêchera plus dès lors d'être des citoyennes à part entière. Lorsque toutes les femmes se seront réappropriées par la contraception le contrôle de leur fécondité, elles changeront ipso facto les règles non seulement sociales, mais conceptuelles du jeu. Par ailleurs, dans le sillage des découvertes si récentes du système chromosomique, de la combinaison génétique, de l'ADN, des empreintes génétiques, d'autres vont suivre, qui, nul doute, transformeront à terme les systèmes de représentation. J'aimerais à présent présenter une autre théoricienne qui a effectué, à mon sens, une percée conceptuelle d'une remarquable cohérence. De sorte que je n'hésite pas à affirmer que la plupart des écrits qui ont suivi la publication de ses œuvres et qui traitent de la lutte contre les effets de la différence des sexes découlent, sous une forme ou une autre, de cette analyse. Alors, cette seconde théoricienne, je suis pratiquement sûre que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Il s'agit de la philosophe Mary Wollstonecraft, dont la vie et l'œuvre ont été consacrées à la lutte contre les effets de la hiérarchisation entre les femmes. C'est une philosophe des Lumières. L'un de ses principaux ouvrages s'intitule « Défense des droits de la femme » et est paru en 1792, « A Vindication of the Rights of Women ». C'est certainement l'œuvre la plus visionnaire publiée sur le sujet. Mary Wollstonecraft ne se contente pas d'analyser, comme d'autres ont pu le faire, la hiérarchisation entre les sexes. Elle imagine une méthode destinée à la combattre. Son postulat de base consiste à déployer les existences humaines dans leur étendue temporelle. C'est le plan qu'elle a choisi pour inciter les femmes à considérer le temps vécu, leur temps réel, non comme un égrénement infini de secondes passées à guetter le regard des hommes, mais comme un ensemble constitué, susceptible d'être segmenté en unités, et où elles n'ont pas à se penser comme des êtres sexués. Les femmes s'inspireront avec profit, propose-t-elle, de la manière dont les hommes structurent leur vie. Elles circuleront alors librement entre le temps où elles ne sont que dans le sexe, comprendre dans le rapport de séduction, le rapport sexuel et celui de la procréation, et celui où, hors de ce temps sexué, elles se consacreraient tout entière au temps des choses de la cité et de l'esprit. Je voudrais simplement vous donner un exemple qui m'a confortée dans l'idée que Mary Wollstonecraft avait vu juste, dans le fait que l'imaginaire social admette que l'identité sexuée ne coïncide ni avec l'anatomie, ni parfois avec le genre. Ainsi, dans la société esquimau, Françoise Héritier rappelle que le sexe apparent de l'enfant n'est pas nécessairement considéré comme son sexe réel. Donc c'est bien une question de temps cette fois-ci, non pas le temps des femmes dans une journée ou dans un limité à un mois. Mais là, il s'agit d'une période plus longue, mais c'est exactement la même chose, puisque à la fin des fins, ces filles ou ces garçons vont changer de sexe à la puberté. Donc c'est un temps très différent. Donc, une petite fille inuite, par exemple, sera jusqu'à la puberté un garçon, parce que son âme, non, est celle d'un homme mort, son père ou son grand-père, dont elle est pendant un temps une réincarnation. Inversement, un garçon pourra avoir pour âme, non, sa grand-mère, et être une fille jusqu'à la puberté. Autre chose, Françoise Héritier, toujours, signale que chez les Nuers d'Afrique occidentale, lorsqu'une femme est stérile, elle peut être créditée de l'essence masculine. Elle revient alors chez ses frères et bénéficie de parts de bétail en tant, je la cite, « qu'oncle paternel », ce qu'elle est devenue en fait. Elle peut à son tour obtenir une épouse dont elle devient le mari. Je cite Françoise Héritier, poussée à l'extrême, « cette représentation qui fait de la femme stérile un homme l'autorise à jouer le rôle d'homme dans toute son extension sociale ». De fait, elle pourra prendre une ou plusieurs épouses dont elle devient le mari et recruter un domestique qui engendrera pour elle des enfants avec ses épouses. Les enfants nés de ce rapport sont les siens et ils l'appelleront père. Donc, voilà pour l'imaginaire social. Et je reviens à Mary Wollstonecraft qui, au XVIIIe siècle, avait déjà emprunté cette piste. Pour revenir à son idée de temps des hommes et de temps des femmes, cette idée, elle l'a empruntée à Jean-Jacques Rousseau et elle l'a retournée en faveur des femmes. En effet, dans un passage de l'Émile où le philosophe entendait prouver l'infériorité des femmes, il avait soutenu que la différence sociale essentielle entre les hommes et les femmes était que la vie des hommes n'était pas réduite à la partie sexuée de leur être. Les hommes, écrivait-il, ne sont des hommes, c'est-à-dire des êtres sexués, qu'à certains moments de leur vie, alors que les femmes sont toujours des femmes. Cette idée marque aujourd'hui encore notre vie politique. On se souvient des insultes sexistes proférées contre Ségolène Royal, qui se présentait à la magistrature suprême dans un rôle qui, en raison, aurait dû la placer hors du sexe. Selon Rousseau, donc, les hommes ont le choix, ils peuvent, comme ils l'entendent, se comporter de façon asexuée, en sujet universel, absorbé dans les affaires du monde, dans lesquelles au moins leur corps et leur sexualité n'ont pas leur place, ou bien décider de revenir dans le temps où leur corps, leur sens, leur désir marquent et souvent dominent leur comportement. On a pu constater encore récemment les réactions de l'opinion publique et de la justice au moment de l'affaire Strauss-Kahn, lorsque l'homme politique semblait avoir perdu la capacité de trancher entre ces deux façons d'exister. Au reste, dans le monde de la gestion des choses économiques, politiques et juridiques, les hommes sont en grande majorité entre eux. Et la règle s'impose à tous, même à ceux qu'attirent les personnes de leur propre sexe. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, où écrit Mary Wollstonecraft, l'esprit capitaliste qui préside à la révolution industrielle rend plus nécessaire encore le clivage du temps masculin. En revanche, une femme reste avant tout un être sexué, que son genre condamne à séduire pour survivre, et que son anatomie destine à procréer pendant toute sa jeunesse, quels que soient les moments de ses jours et de ses nuits. L'analyse pionnière de la théoricienne radicale qu'est Mary Wollstonecraft montre que dès la naissance, il est procédé à une négativisation des êtres de sexe féminin. On leur apprend à être toujours femme, observe Mary Wollstonecraft. Et ce désir acquis est précisément, je cite, le sentiment qui nuit au sexe féminin tout entier. C'est ainsi, affirme-t-elle cruellement, que les femmes n'ont plus d'autre souhait que de devenir d'insignifiants objets du désir. On ne naît pas femme, donc, comme le montrera aussi Simone de Beauvoir. On le devient. Le genre féminin est attribué au nouveau-né dont l'anatomie semble permettre à terme la reproduction. Cette désignation, ça c'est pas de Mary Wollstonecraft, c'est le genre féminin donc est attribué au nouveau-né dont l'anatomie semble permettre à terme la reproduction. Cette désignation s'accompagnera d'un dressage adapté aux critères de la société dans laquelle elles sont destinées à vivre, mais dont certaines règles sont identiques partout. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle la désignation sexuelle autoritaire à la naissance n'a pas les mêmes conséquences pour les filles et pour les garçons. Ce dressage n'inclut pas jusqu'à la fin du XIXe siècle la transmission de connaissances intellectuelles. Ainsi, à Seine Mary Wollstonecraft, elles deviennent dans leur immense majorité des infirmes de la raison. C'est un réquisitoire implacable que Mary Wollstonecraft instruit contre une société injuste qui déforme, elle parle de véritable déformation des êtres qui se trouvent être nés de ce qu'on appelle le sexe féminin. Bien des décennies passeront avant que ces idées soient entendues. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la science médicale s'attachera en particulier à montrer que les femmes sont entièrement femmes, tota mulier in utero, si bien que leur équilibre physique et moral dépend de leur menstrue. La femme est une malade, affirme Jules Michelet. Elle est généralement souffrante au moins une semaine sur quatre. Mieux encore, en réalité, 15 ou 20 jours sur 28. On peut dire presque toujours, la femme est une blessée. À Londres, à la même époque, le docteur Henry Maudsley, psychiatre de renom, tient les adolescentes et les jeunes femmes comme entièrement dépendantes du fonctionnement de leurs organes sexuels. Alors que la bataille fait rage au Parlement de Westminster pour que les filles aient accès à l'éducation secondaire, il se prononce contre toute initiation des filles aux choses de l'esprit, au prétexte que l'apparition des menstrues produit une dépense d'énergie physique trop importante pour que s'y ajoute une dépense d'énergie supplémentaire, et cela bien sûr d'autant plus que le sexe féminin dispose de capacités inférieures au sexe masculin. Bien plus, dit-il, il y a certaines femmes arrivent à un certain niveau intellectuel, mais alors les enfants qu'elles produisent sont des enfants qui sont tout à fait, il dit, pionniers, qui sont malingres, ils sont tout à fait inadaptés eux-mêmes à la reproduction. Voilà. Alors, revenons à Mary Wollstonecraft. Elle en arrive à rêver follement, dit-elle, de la confusion, de ce qu'elle appelle la confusion des sexes. Il lui apparaît que le seul moyen de sortir du piège du conditionnement social déguisé en argument de nature dans lequel se trouve la femme, c'est d'œuvrer à mériter l'épithète de masculine, puisque le sexe masculin n'est pas asservi. Une femme féminine n'est rien d'autre qu'un être soigneusement dressé à se conformer aux désirs des hommes. Le seul épithète élogieux que devrait donc chercher à obtenir une femme est l'adjectif masculin. Mary Wollstonecraft le revendique, elle en est fière. D'ailleurs, son écriture et sa pensée ont été accueillies de cette façon par les critiques de son époque. D'un point de vue philosophique, une femme masculine n'est évidemment pas un homme. C'est une femme, je cite, qui cherche à acquérir ses talents et ses qualités réputés masculins, dont l'exercice ennoblit le caractère. Vous reconnaîtrez le vocabulaire du XVIIIe siècle. Elle déclare en iconoclaste « Je souhaite de tout mon cœur voir disparaître au sein de la société la différence entre les sexes. » Ce qui signifie sous sa plume non seulement qu'une différence dans le dressage, dans l'éducation auquel les deux sexes sont soumis par la société, non seulement une différence, mais surtout pour reprendre le concept forgé par Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1988, qu'elle puisse jouir d'égales capacités avec les hommes. Par quoi il faut entendre qu'elle dispose, je cite Amartya Sen, de cet ensemble des vecteurs de fonctionnement qui indique qu'un individu est libre de mener tel ou tel type de vie. Autrement dit, la liberté que possède un individu de mener l'existence qu'il a raison de vouloir mener. Alors là, à présent, je vais passer à ce que je considère comme des impasses théoriques. Et puis aussi, je vais parler de la pesanteur des systèmes de représentation sociale. La pensée matérialiste de Françoise Héritier et celle de Mary Wollstonecraft, bien qu'elle traite à l'aide de la philosophie politique et de la philosophie morale d'un autre aspect de la hiérarchisation des sexes, déçoit un certain nombre de philosophes et de sociologues inspirés par l'urgence de la déconstruction de la différence des sexes. En effet, cette pensée matérialiste, telle que l'a présentée Françoise Héritier, n'engendre à première vue aucune application immédiate. Si bien qu'à l'heure actuelle, on a entendu de nombreuses interprétations cet après-midi, et c'est très bien parce que c'est exactement, ça reflète exactement ce qui se discute actuellement en France. Donc, à l'heure actuelle, en France, des chercheurs et des chercheuses commencent à s'inspirer des ouvrages publiés aux États-Unis depuis les années 80, qui se proposent de dénouer ce qu'ils tiennent pour le nœud gordien de la pensée dualiste, ou encore comme une bicatégorisation qui dresse un obstacle à l'égalité en même temps qu'à la diversité des individus. Ainsi, l'historien Thomas Laqueur, on en a parlé tout à l'heure, dans La fabrique du sexe, paru en 1992 à partir d'une étude de l'histoire médicale occidentale, démontre que ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'est apparue l'idée qu'il devait exister quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, ou encore dans l'ensemble du corps, qui permettrait de concevoir des catégories fixes d'imorphisme sexuel. Il rappelle le nombre des interprétations très diverses qui ont été données à la sexuation, à savoir soit une biologie de la hiérarchie dans laquelle il n'y a qu'un seul sexe, soit une biologie de l'incommensurable différence entre les deux sexes, soit l'affirmation qu'il n'existe pas de différence sexuelle évidente ou qu'il n'y a pas de sexe. Cette constatation qu'il y a eu pendant 2000 ans, diverses interprétations médicales de l'anatomie humaine et des stratégies de politique sexuelle, l'amène à s'interroger sur l'existence universelle de la différence des sexes. Par ailleurs, un courant de pensée pluridisciplinaire, mais fondé pour l'essentiel sur les travaux de la biologiste américaine Anne Fausto Sterling, et notamment sur son ouvrage publié en 2000 et traduit en 2012 aux éditions de La Découverte sous le titre « Corps en tout genre, la dualité des sexes à l'épreuve de la science », ouvrage traduit grâce au financement de l'Institut Émilie du Châtelet, considère que la différence des sexes, telle qu'elle est constituée, est un leurre. À partir d'un historique de l'hermaphrodisme, appelé aujourd'hui intersexualité, Anne Fausto-Sterling fait apparaître que le taux des enfants intersexes est de 1,7% des naissances en moyenne par an. Surtout, elle dénonce énergiquement, et a raison bien sûr, l'utilisation systématique des techniques médicales modernes dans le but de corriger les intersexes, soit avant leur naissance, soit dès leur naissance. À ses yeux, cette attitude est un véritable défi à la raison, puisque, au lieu de nous pousser à reconnaître la nature sociale de nos idées sur la différence sexuelle, l'état actuel de la chirurgie nous amène à renforcer l'idée que les gens sont naturellement mâles ou femelles. Une idée, poursuit-elle, qui persiste alors même que la fréquence des naissances intersexuées est remarquablement élevée et susceptible d'augmenter. En réalité, soutient Anne Fausto-Sterling, à l'aube d'un nouveau siècle, nous passons d'une ère de dimorphisme à une ère de variété, au-delà du chiffre 2. Nous vivons, imagine-t-elle, un moment de l'histoire où nous avons la compréhension théorique et le pouvoir pratique de poser une question jusqu'alors inouïe dans notre culture : doit-il n'y avoir que deux sexes ? Par provocation, elle avait été il y a quelques années jusqu'à proposer un nouveau système culturel à cinq sexes. Aujourd'hui, elle se félicite que cette provocation ait déclenché un courant de pensée qui s'interroge sur, je cite, « la difficulté à définir les frontières entre le masculin et le féminin ». Chez les intersexuels, les théories d'Anne Fausto-Sterling ont eu un effet libératoire. Ainsi confortée dans son combat, la fondatrice de the Intersex Society of North America, Cheryl Chase, réclame pour les enfants intersexes le droit de conserver le sexe social dans lequel ils sont nés et dans lequel ils ont été élevés sans intervenir chirurgicalement et de ne procéder à une éventuelle intervention que lorsqu'une fois devenus adultes, adolescents ou adultes, ils en décident autrement. Lors d'un colloque en 2011, intitulé « Mon corps a-t-il un sexe ?», colloque organisé par l'Institut Émilie du Châtelet, plusieurs conférenciers ont souligné les difficultés rencontrées lorsque les enfants sont scolarisés, et notamment dans les vestiaires sportifs. Quoi qu'il en soit, la question des intersexués, comme sur un autre plan celle des transsexuels, aussi humainement difficile qu'elle soit à vivre pour les intéressés et leurs familles, dans l'état actuel de nos sociétés, aussi utile qu'elle puisse être aux chercheurs pour élaborer des modèles théoriques, au même titre que sont tenues, je pense, pour éminemment stimulantes les théories sur le genre de la philosophe Judith Butler et Christine Delphi, je reste persuadée, comme le pense la politologue Christine Fauré, auteure de la nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, qu'on ne peut faire de la sociologie politique avec des modèles théoriques. Sous la plume de Deleuze, dit-elle, ces théories n'ont jamais eu vocation à être autre chose que des constructions imaginaires, et en sociologie, ces constructions ne peuvent fonctionner en l'état. Pour en terminer avec ce chapitre, permettez-moi de citer d'abord Lacan. Dans le psychisme, il n'y a rien par qui le sujet puisse se situer comme être de mâle ou être de femelle. Et d'accompagner cette citation de l'excellent commentaire de Claire-Laurence Naon dans « De la différence des sexes entre les femmes », édité par Dominique Lecourt, affirmer que les transsexuels, parce qu'ils démentent avec tant d'ardeur le lien ordinairement établi entre l'anatomie et l'inscription psychique, d'un côté ou de l'autre de la sexuation, sont au plus près de cette logique de l'inconscient, pourrait surprendre, sinon choquer. En effet, qui mieux que ces patients, qu'ils prétendent être des femmes, malgré une anatomie certes masculine, transsexuel masculin, ou bien des hommes, indépendamment de leur corps féminin, transsexuel féminin, possèdent à ce point la certitude de ce qu'est la différence des sexes, qu'ils n'hésitent pas à l'inscrire au plus profond de la chair par le recours à la chirurgie. Ils affirment et revendiquent que la féminité ne dépend en aucune manière de la physiologie de la femme, que la virilité ne soit absolument pas asservie à l'apparition, à la possession de l'appareil génital mâle, et finalement, que la jouissance transcende la matérialité des sexes. Françoise Héritier, elle, n'a pas de mots trop durs pour qualifier les théories de l'indifférenciation entre les sexes qui ne constitueraient, dit-elle, que des épiphénomènes, une écume des choses à l'échelle du grand mouvement de l'humanité. Ma conviction profonde est que si les femmes doivent un jour entrer à égalité dans l'histoire politique des sociétés où elles vivent, ce ne sera que grâce aux batailles menées partout dans le monde, par tous ceux qui œuvrent à donner la maîtrise de leur fécondité au plus grand nombre possible de femmes en âge de produire des enfants. Étienne-Émile Boulieu, en 1999, qualifiait de tout à fait réaliste et réalisable pour le 21e siècle en France de dépasser largement les 50% actuels de couples pratiquant la contraception et de viser les 100%. La découverte de la pilule a été et reste pour la société tout entière la découverte la plus importante de la deuxième moitié du XXe siècle. Il en est de même de la victoire de la lutte pour légaliser l'avortement, même si la loi reste encore très restrictive. Si bien que la philosophe Geneviève Fraisse considère la contraception comme un véritable habeas corpus dans la perspective de la différence des sexes et de la question politique de l'égalité. Reprenant les termes de la loi anglaise du XVIIe siècle, elle en souligne la justesse sémantique. Les mots sont exacts. La contraception s'oppose à l'injustice. L'injustice qui laisse les femmes toujours plus punies que les hommes dans leur tentative d'éviter la grossesse ou de provoquer un avortement. Dans le passé, les femmes ont toujours tenté d'agir contre leur grossesse surnuméraire. Mais elles n'ont pu le faire que de manière très aléatoire et avec des conséquences tragiques, souvent pour leur santé et sur leur vie. Dans tous les cas, pour les bourgeoises comme pour les ouvrières, l'avortement ne s'apparentait pas à l'exercice d'un quelconque pouvoir, mais à des mesures relevant de l'hygiène intime, souvent honteuse, toujours cachée. Lutter contre l'impossibilité pour les femmes de refuser les grossesses non désirées qui envahissaient leur corps, alors que tant d'entre elles rêvaient d'indépendance, de création intellectuelle ou artistique, ou que tant d'autres, à peine relevées de leur couche, étaient envahies d'effroi à la perspective de perdre la vie lors de ce nouvel accouchement, comme ce fut le cas de Mary Wollstonecraft et de la physicienne des Lumières, Émilie du Châtelet, continuer à avancer pied à pied pour ne pas reculer, reste le devoir impérieux de toutes celles et de tous ceux qui ont bénéficié des résultats des travaux des chercheurs, des technologies médicales qui en découlent et de la présence des thérapeutes éclairés, même si les insuffisances restent criantes. Pour conclure très brièvement, je reprendrai la théorie sur la segmentation du temps de la vie de Mary Wollstonecraft pour vous parler d'amour, manière comme une autre de répondre à la question que je m'étais posée, que faire de la différence des sexes? Wollstonecraft oppose à l'édification qu'elle préconise d'un temps non sexué où femmes et hommes seraient enfin confondus dans l'égalité du vivre ensemble, l'existence d'un temps sexué, partageable à l'envi par les êtres humains, en l'occurrence dans son système philosophique, entre les hommes et les femmes, où il donnerait libre cours, écrit-elle, à l'appétit commun et à la commune passion de leur nature. Contrairement aux luttes sanglantes que mènent les soldats sur les champs de bataille dans le but d'exterminer l'ennemi, femmes et hommes n'ont aucune obligation de se tuer entre eux, même si des actes d'une brutalité atroce sont trop souvent commis à l'encontre des femmes. Ainsi se termine d'ailleurs l'une des grandes épopées nomades chantée au 8e siècle dans les plaines d'Anatolie. Après s'être affrontée à l'arc avec le héros et l'avoir désarmé, l'héroïne réintroduit l'idée de la différence des sexes dans cette situation d'égalité qui humilie par trop son compagnon. Elle la nettoie, si l'on peut dire, de la valence différentielle des sexes. Après qu'elle ait tiré sa dernière flèche vers le sol, les deux héros de cette chante fable s'enlacent et échangent longuement des baisers passionnés. Leur discours amoureux chuchote cette dialectique sur laquelle se fonde la vie de notre espèce. « Je ne pourrai jamais te tuer », lui confie-t-il, « et elle, je ne pourrai pas te tuer
». Merci beaucoup. Avez-vous un commentaire, une question? Je ne sais pas, il est tard. Oui, allons-y.
Merci beaucoup pour cette mise en perspective aussi
avec les traditions féministes. Je pensais que vous alliez parler de Beauvoir, en fait, qui commence le deuxième sexe par un chapitre sur la biologie, justement, aussi.
Ah non, moi, j'ai juste parlé de sa lumineuse définition. On n'est pas femme, on le devient. Ce qui me semble formidable.
Non, je voulais souligner peut-être de manière plus polémique.
J'aurais peut-être dû en parler, mais c'était...
Non, le fait que le féminisme, il change aussi, les revendications, elles changent. Et moi, je suis surpris, j'entends que, par exemple, la signification de la pilule sur laquelle vous avez beaucoup insisté, elle change aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, dans un certain nombre d'écrits, la pilule, ça passe pour un système de contrôle des femmes, en fait. Et je pense en particulier aux travaux d'Elsa Dorlin qui présente la pilule comme une manière d'imposer aux femmes des rythmes, de regenrer les femmes ou de sexuer les femmes. Donc, voilà, vous vous entendrez agir là-dessus.
Oui, voilà. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez...
La pilule comme une contrainte. Voilà.
Pour les jeunes, pour les jeunes.
Oui, oui, non, ça ou la mort pendant l'accouchement, je veux dire. Non, j'exagère, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, bien sûr, c'est pas du tout au point. Bien sûr que... Là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ça, j'aurais pu vraiment développer, mais je pense que ce n'est pas le lieu et ce n'est plus l'heure. Bien sûr que la pilule, j'ai parlé de la pilule, mais c'est pas, d'abord, il n'y a pas que ce moyen de contraception. Et il se trouve que les enquêtes prouvent que la plupart des femmes préfèrent contrôler elles-mêmes leur fertilité plutôt que de faire confiance au contrôle des hommes. Donc ça, c'est toujours un peu difficile à mesurer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la pilule masculine n'a pas eu beaucoup de succès. Ben non, il faut... Voilà. Et donc, à partir du moment où... Voilà, il n'y a pas de système idéal. Alors, il est certain que la seule chose qui permet aux femmes de pouvoir... espérer une mesure de non-discrimination dans nos sociétés, c'est de ne pas être forcée de concevoir des enfants quand elles n'en veulent pas du tout ou quand elles n'en veulent pas à certains moments. Donc voilà, tout ça est une question d'équilibre, mais je ne vois pas très bien. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de travaux là-dessus. Là.
Ce que je trouve remarquable dans votre exposé, c'est qu'on retrouve finalement toute une espèce de critique que moi, de mon côté, j'adresse au néo-darwinisme, à savoir d'imposer la reproduction comme étant l'alpha et l'oméga de toute la vie sur la planète. Et la question qui se pose, que j'aimerais vous poser, c'est qu'on voit bien en fait que le refus de ce que Mme Touaille a parlé tout à l'heure, l'idée d'une gratification que le sexe offrirait, est-ce que ce n'était pas non plus un moyen de on disait que les femmes ne jouissaient pas, quoi, en gros, c'est ça l'idée pendant longtemps. Est-ce que ce n'était pas un moyen finalement de tout faire dans l'esprit de la femme prisonnière de sa reproduction et uniquement prisonnière de la reproduction en essayant de baser ça sur des pseudo-contrôles naturalistes et biologiques?
Oui, je ne peux qu'être d'accord avec vous. L'idée qu'il n'y a pas d'orgasme féminin est une idée qui est surtout une idée bourgeoise. Parce que tout le monde savait bien, enfin, de théoriciens bourgeois, parce que tout le monde savait bien qu'il y avait un orgasme féminin. Je veux dire que c'est pas la peine d'attendre que ça soit écrit sur noir sur blanc. Donc voilà, mais vous avez raison. Je peux être d'accord avec ça.
Oui, j'ai une annonce à faire parce que vous avez cité Geneviève Fraisse. Elle vient le 13 mars donc à l'École nationale supérieure de commerce de Poitiers. De commerce. Je suis fatiguée aussi. Ils ne sont pas là. Les ingénieurs. Je ne veux pas dire que c'est presque pareil. Ça n'a rien à voir. Et donc à 18h30 le 13 mars. Donc ça, dans la continuité de notre thématique, en fait. Hein. Voilà.
Bah, écoutez, donc, je vous conseille vivement d'aller l'écouter parce qu'elle est vraiment formidable.
Merci beaucoup, madame. Merci à tous. Hein, vraiment, c'était une super journée. Donc, merci à nos intervenants et à nos amis et aux auditeurs.